Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, c'était le trafic le plus rapide de l'histoire, ne vous inquiétez pas, il y aura un trafic un petit peu plus tard dans cette émission. On est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, pour ce nouveau week-end, avant évidemment les Jeux Olympiques, ce sera fin juillet. Il y a évidemment le Tour de France qui va débuter aujourd'hui, il y a également l'Euro en ce moment. Bref, une émission exceptionnelle à vous proposer tout au long du week-end et notamment ce matin. Vous le savez, les grandes gueules du sport, c'est la seule émission avec des vrais champions à l'intérieur. Au sommaire aujourd'hui, une démonstration, une correction, une véritable boucherie. Le Stade Toulousain a humilié l'UBB hier soir en finale du top 14, 59-3. Aimez-vous ce genre de finale, les GG? Ce sera la une dans quelques instants. France-Belgique en 8e de finale de l'Euro, la revanche de 2018 pour les Belges, symbolisée par un mot, le Somme. Le Somme de 2018 va-t-il jouer dans ce 8e de finale? Et puis vous le savez évidemment, c'est le grand départ du Tour de France 2024 aujourd'hui. Tadej Pogacar est le grandissime favori. Le suspense est-il déjà mort? Nous serons à partir de 11h en direct de Florence. Sans oublier vos rubriques traditionnelles, la punchline des GG. Nous parlerons notamment du salaire de Vincent Labrune. Est-ce un problème? Ce sera à 10h30. Le président de la LFP, vous l'avez certainement suivi, qui était auditionné par le Sénat cette semaine. Le zapping, on s'en fout pas, à 10h45. Et évidemment, le débat caché 11h30. Mais là, comme d'habitude, je ne peux rien vous dire. Les grandes gueules du sport, je vous les présente ce matin. Sachez, avant de vous présenter, que je me suis régalé à les écrire hier et j'espère évidemment que personne n'en prendra ombrage. Une grande gueule qui, comme Vincent Labrune, il a pris un saladier grâce à la Ligue 1. Cyril Linette, salut Cyril.
Bonjour Jean-Christophe.
Ça va Cyril?
Très bien, très bien.
Très heureux de te retrouver.
Très joli comparatif. Oui, ça fait un petit moment. Depuis la dame du Guinness Book, là.
Mais
je
oui.
me suis parmi, du coup, j'ai fait pendant 3 semaines, c'était injoignable.
T'avais fait une délocalisation formidable.
Le record du monde. Il faisait 8 degrés et c'était super.
Ouais. Sache que demain, on sera à Angers. Tu veux venir?
Ouais, non.
Pour les championnats de France d'athlétisme.
Non.
Évidemment. Une grande gueule qui, comme Vincent Labrune, on ne sait pas encore s'il a tiré la Ligue 1 vers le haut ou vers le bas. Pascal Duprat, salut Pascal.
Bonjour Jean-Christophe, salut Cyril, Ludo, Fred.
Salut,
comment
Pascal.
Allez-vous, les amis?
Salut Pascal.
Ça va, mon Pascal?
Écoute, ça va super. J'ai vu un très beau match de rugby disputé par une seule équipe hier.
Oui, exactement. On va en parler dans quelques instants. Tu étais au Stade Vélodrome.
Bon résumé.
Tu lui diras ton ressenti, en tout cas en direct du stade. Une grande gueule qui, comme Vincent Labrune, il attend toujours que Canal le rappelle. Ludovic Duchesne, salut Ludo.
Je suis pas certain. Bonjour à toutes et à tous.
Ça va,
salut
Ludo.
Oui, je m'en passe bien. Tout va bien.
Ouais.
Salut Pascal.
Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu dans cette émission.
Ouais. Bah, il faut pas être là trop souvent. C'est pas un petit peu, c'est bien.
Oui, c'est ce que je dis tout le temps, Christophe Cessieux. Tu vois. Visiblement, il ne m'écoute pas. Lui, il est là tous les week-ends. Ravi de te retrouver également, ouais, mon cher Ludo. Et puis une grande gueule qui, comme Vincent Labrune, il s'est fait grimper dessus par plus fort. Fred Weiss, salut Fred.
Salut.
Toi, ton ça Maxime Saada, c'est Vince Carter. Ça va, mon Fred?
Ça va très bien.
Ouais. J'ai le droit, une fois quand même, dans l'année, de te faire.
Oui, pas de problème. Mais il faut quand même raconter la vérité. On s'est vu avant. Tu m'as dit, Fred, je vais te dire un truc. J'espère que tu apprendras pas mal. Tu m'as fait un petit peu avant.
Parce
que
courageux, mais pas téméraire.
Ouais, voilà.
Il faut savoir. J'ai un grand courage qui n'est pas perceptible comme non. ça, de premier abord. Mais ne vous inquiétez pas. J'en ai un petit peu. Bon, en tout cas, on a bien débuté cette émission. Je vous propose cette citation pour faire notre premier débat. Une citation de Marie-Antoinette Grégoire Coupal, qui a dit un jour: il est des enfants qu'on ne peut espérer corriger sans leur administrer de temps à autre la fessée, et certains adultes conservent le naturel de ces enfants.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
C'est le dernier épisode de ce top 14 et vous le vivez sur RMC. Le coup d'envoi de ce match, c'est parti à l'instant. Lupon qui renverse, qui va au rein, est-ce qu'il va y aller tout seul? Il est arrêté,
et c'est
Antoine Dupont. Oh là là, Dupont, c'est incroyable. Dupont, le coup de pied assis. Quel essai magique côté Toulousain. Ça repart avec Graou, ça ne s'arrête jamais. C'est pour Ramos. Est-ce qu'il a marqué? Nouvel essai. Oh là, quel rugby les Toulousains. Aura, on est à 5 mètres face au poteau. Il en prend de tout, les Toulousains. Il en prend de tout et ça va aller à l'essai. 8e essai. Attention, il travaille, Capozzo, il remet les jambes. Il va y aller ou pas? Capozzo, essai. Le 9e essai Toulousain. En quoi? C'est une orgie, c'est incroyable. On n'a jamais vu ça. Un essai de 100 mètres, c'est terminé. Jamais rassasié. Après une 6e Champions Cup, le Stade Toulousain décroche un 23e bouclier de Brennus.
Toulousain, allez le Stade.
c'est tout simplement du jamais vu en finale de Top 14. 56 points d'écart, un record. Le Stade Toulousain a atomisé l'Union Bordeaux-Bègles hier soir pour conquérir son 23e bouclier de Brennus, son 3e doublé Coupe d'Europe championnat, un récital de bout en bout. Vous l'avez entendu, les Toulousains, un cauchemar de bout en bout pour les Bordelais. Aucun suspense, 9 essais à 0, une leçon, une correction inimaginable à ce niveau. La musique qui fout les jetons. Et cette question, aimez-vous ce genre de finale? En d'autres termes, avez-vous pris du plaisir hier? Oui ou non? Fred Weiss?
Oui.
Pascal Duprat?
Non.
Cyril Inet?
Jusqu'à l'essai d'Antoine Dupont, oui. Après, non. Donc, globalement, non.
Globalement, non. Ludovic Duchesne?
Totalement, non.
Totalement, non. Avant de débattre, on va retrouver la voix du rugby sur RMC qui était en direct du stade Vélodrome hier soir. Wilfried Templier. Salut, Wilfried.
Salut tout le monde.
Alors, comment les Toulousains et les Bordelais ont vécu cette finale?
Allez, on va commencer côté pile les plus touchés, hein, les Bordelais. Vous imaginez les perdants plus meurtris que les Toulousains, finalement euphoriques avec un tel écart. Comment ont-ils vécu ça? Imaginez l'impuissance du manager Yannick Bru au fur et à mesure que le score gonflait, voir sa souffrance. Écoutez.
C'est dur pour les joueurs aussi parce qu'ils méritent pas ça, mais chaque action, on a pris essai dans les 20 dernières minutes. Donc, du bord du terrain, on souffre avec les joueurs. On se tait, on accepte le camoufler et on se dit qu'on va se servir de ça pour revenir plus fort un jour. Mais on est aussi très envieux de ce que nous a proposé Toulouse aujourd'hui. On s'est dit qu'on n'est pas à ce niveau et qu'il y a forcément des choses qu'on fait moins bien qu'eux et que ça doit être un moteur pour la suite, tout simplement.
Mais avant, il y avait eu un calvaire sur le terrain, résumé par le capitaine parfois en larmes, Maxime Lucu.
On a lâché au bout d'un moment parce qu'on sentait que ça s'échappait et que plus les minutes avançaient, plus le score était difficile à revenir. C'est difficile de lâcher comme ça parce que c'est pas notre état d'esprit, c'est pas notre caractère de groupe. On a un groupe qui est extraordinaire et donner beaucoup sur une saison et d'arriver en finale, de voir que rien ne marche et de s'écrouler comme ça. Donc à la fin, on a tous baissé les bras et c'est difficile de s'accrocher jusqu'à la fin parce qu'on était déçus et malheureux pour nous-mêmes, quoi.
Et en face, ce côté évidemment historique mais aussi presque irréel où en deuxième mi-temps chaque action a amené des essais en pagaille et de beaux essais dont le dernier en apothéose de 100 mètres de l'embut toulousain au dernier coup de rein d'Ange Capozzo sur Damien Penaud. Vous imaginez que sur le banc des Toulousains le sentiment était à l'opposé de l'UBB, même si le manager Hugo Mola ne retenait que la victoire.
Le plaisir, je le prends de gagner, que ça soit d'un point ou de beaucoup. Le seul confort qu'on a, c'est que les 20 dernières minutes sont un peu moins stressantes. Le seul plaisir qu'on prend, c'est de gagner. C'est pas l'ampleur du score qui est peut-être un peu démesurée au regard encore une fois de notre adversaire qui, je pense, fera partie du paysage inquiétant dans les prochaines années. Et ce soir, je crois que en prenant le score très rapidement, on s'est quand même facilité la tâche.
Pendant que Thomas Ramos vous raconte les sensations des joueurs, notamment en deuxième mi-temps.
On le vit très bien, forcément. Ça faisait longtemps, je pense, qu'on n'avait pas réalisé un match comme ça. Forcément, en deuxième mi-temps, on se dit que celui-là, il est pour nous et que le match est fait. Ce qui montre aussi un petit peu l'état d'esprit de notre groupe, c'est aussi cette dernière action. Le match est terminé et on a quand même envie d'aller encore puiser dans nos ressources et marquer un dernier essai. Ça, c'est fabuleux.
Fabuleux, l'adjectif les supporters garderont longtemps en mémoire de ce soir historique de juin 2024. Et comme ils l'ont chanté, je cite, oh là, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait le doublé.
Merci Wilfried Templier, voilà, avec le micro c'est mieux. Tu restes avec nous pour ce débat. Aimez-vous ce genre de finale, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio? Vous n'êtes pas d'accord les GG? C'est complètement non, on n'aime pas ce genre de finale. Ludovic Duchesne, pourquoi non?
Non, pour faire un grand match, il faut être deux. C'est une maxime, mais bon, je trouve que voilà, hier soir il y avait qu'une équipe sur le terrain et il faut lui rendre ce qui lui appartient. Toulouse a fait un match exceptionnel. Après, moi je me suis profondément ennuyé. Il n'y a pas eu de suspense à aucun moment. Ils ont été dépassés dans tous les secteurs. Et donc, voilà, il faut apprendre, il faut prendre pour apprendre. Là, pour le coup, c'était leur première finale. Donc, l'UBB va sans doute mieux se débrouiller les années à venir. C'était le 23e titre pour Toulouse. 9e finale d'affilée. Donc, ils les gagnent toutes. Donc, voilà, il n'y a pas eu photo du début à la fin. Et il y avait pas de plaisir quand on est neutre. Quand on est supporter toulousain, j'imagine qu'on s'est régalé. Mais quand on est neutre, dans ce cas-là, zéro plaisir.
Alors, je pense exactement l'inverse. Justement, quel plaisir de voir une équipe aussi incroyable, fantastique que Toulouse montrer justement qu'elle domine et qu'elle ne domine pas pour rien. Effectivement, j'ai adoré cette finale pendant 99% du temps. Alors, on parlera certainement du dernier essai un peu plus tard, mais pendant 99% du temps, on a vu une équipe. Ça m'ennuie, Pascal, que toi qui aimes le sport, tu aimes pas les équipes qui sont performantes, qui gagnent et qui sont sublimes comme Toulouse. Mais peut-être que je me suis trompé sur toi, Pascal.
J'adore.
Peut-être que tu n'aimes pas
trop. Toulouse, mon pauvre, si tu savais.
Et ben, donc.
D'après toi, pourquoi Pascal a jamais voulu gagner 14-0
Exactement, il n'aime pas quand ça se passe trop facilement. En fait, il faut reconnaître la valeur d'une équipe et il faut se rendre compte que le sport, c'est ça. C'est l'excellence.
Mais tu peux reconnaître la valeur d'une équipe et trouver que le match était inintéressant.
Non, mais non, le match, c'est pas inintéressant. Il y a 9 essais. Il y a 9 essais. En quoi c'est inintéressant? T'as du spectacle. T'as une équipe fantastique et t'as une équipe qui se bat jusqu'au bout parce qu'elle respecte l'adversaire.
Il y a toutes les valeurs, d'accord, le respect, tout ce qu'on veut, mais le sport, malgré tout, c'est l'émotion. Moi, je veux dire, il n'y a pas de critique sur cette finale. On peut critiquer ni Toulouse, ni Bordeaux, tout le monde a fait son maximum. Mais il y a quand même une frustration. Moi, je suis un adepte de la finale du top 14, depuis ma période de directeur des sports de Canal. Je trouve que la ligue de rugby fait un super job, met très bien en valeur son championnat avec les barrages, les demi-finales sur terrain neutre, la finale délocalisée à Marseille, c'est formidable, comme il l'avait fait à Barcelone il y a quelques années, à l'époque de l'Euro. Il y a une montée en puissance, les supporters ont un super esprit, on le sait, dans les rues de Marseille, c'est formidable. Il y a la Marseillaise, il y a un décorum incroyable. Et en fait, au bout de 10 minutes, 15 minutes, on a compris que la finale va être gagnée et largement par les Toulousains. Donc, on peut tout à fait apprécier.
Tu te rends compte que c'est de la chirurgie, oui, que t'as une équipe fantastique, que t'as une équipe historique.
Mais la finale de l'an dernier, par exemple, entre le Stade Toulousain et La Rochelle, gagnée par Toulouse au dernier moment, alors que La Rochelle avait donné l'impression en puissance. Voilà. Je pense, c'est la question que je voulais poser à Pascal, il nous parlera de ses impressions en tant qu'entraîneur, parce que j'ai entendu Hugo Mola dire, moi je prends autant de plaisir si je gagne d'un point que comme je gagne de cette manière-là. Pascal, alors, je ne sais pas si ça lui est arrivé à Pascal avec ses... Est-ce qu'on prend plus de plaisir
de gagner, ça m'est arrivé quand même.
Voilà, ça j'allais dire, de gagner avec un gros écart.
J'ai perdu une finale de Coupe de France 3-2, j'ai souffert.
Mais est-ce qu'on prend autant de plaisir de gagner en surdominant un match en disant j'ai quand même monter une extraordinaire machine et comme le dit Fred, j'en profite. Est-ce qu'on prend autant de plaisir que quand on gagne à l'arrache d'un point une finale ou de quelques points comme Toulouse a fait l'année dernière? Est-ce que Mola est sincère quand il dit qu'il a pris autant de plaisir hier soir qu'il a pu en prendre l'année dernière?
Je suis sûr qu'il l'est. Moi, je voudrais développer sous un autre angle. Jamais un seul instant, alors j'étais dans les gradins, très bien placé, merci RMC. C'est la première fois que je vois une finale du top 14 en live. J'adore le rugby. Jamais un seul instant, je me suis ennuyé pendant cette finale. Par contre, très vite, mes émotions, elles ont été transformées parce qu'il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Ça n'enlève rien à la maestria des Toulousains qui dominent depuis de nombreuses années et encore plus en ce moment le rugby français. C'est exceptionnel ce qu'ils sont capables de faire. On a l'impression, quand on est là au bord du terrain, j'étais juste au-dessus des bancs, j'ai l'impression que les supporters, les joueurs, le staff, les dirigeants, tout le monde respire le même rugby dans ce club. C'est incroyable. Franchement, c'est magique. Tu vois les remplaçants, ils sont pas frustrés d'être remplaçants. Ça devient, tu te viens à te dire, comme je le dis souvent, putain, pourquoi j'ai pas été entraîneur de rugby? Tu vois des comportements incroyables, extraordinaires.
Mais non, il vaut mieux pas que tu sois entraîneur de rugby parce que toi, tu aurais mis le frein à main et t'aurais pas mis autant d'essais, toi.
Oui, mais peut-être que j'ai des ressources insoupçonnées, tu ne sais pas, Fred.
Donc, tu aurais écrasé l'équipe adverse? C'est pas beau, ça, Pascal, pour le sport.
Toujours est-il que si t'es mieux, j'ai transférer mes émotions dans d'autres secteurs d'une finale de top 14. J'étais moins sur le jeu, quoique j'ai regardé l'aspect défensif des Toulousains. Ils construisent leur victoire parce que ce sont des rocs, ils sont infranchissables, ils sont toujours en train d'avancer, ils sont toujours dans l'avancement, ils ont une condition physique incroyable. D'ailleurs, à ce titre, il y avait un jour de récupération en moins pour les Girondins et ils avaient joué un match de plus parce que les phases finales, il a fallu que Bordeaux joue un match de plus. Ils étaient rincés, les Bordelais.
On va le prendre dans le podcast rugby entre les poteaux.
Cela dit,
Pascal,
donc encore une fois, Hugo Mola, c'est un gars exceptionnel. Je les connais très bien, enfin bien les deux managers. Je les apprécie tous les deux. Hugo Mola, je vous rappelle qu'en 2016 ou 2017, il finit 12e. C'est sa deuxième année après Noves. Au 7 deniers, on le siffle. Okay, et aujourd'hui, il a un palmarès incroyable parce qu'il a fait preuve de résilience et parce qu'il a mis des choses en place. Donc ça, c'est formidable. Okay. Néanmoins, pour ce qui est du match, franchement, au bout de 10 minutes, vous l'avez dit, tu sais que c'est terminé. Eh bien, moi, ces finales-là, elles ne me passionnent pas, si vous voulez, parce que je prends peine pour les adversaires. Et j'ai regardé, donc...
C'est ça, le sport, Pascal, il n'y a pas de peine. Il y a une équipe qui est plus forte que l'autre, c'est tout.
Non, mais t'as besoin... Tu l'as dit tout à l'heure, Cyril, le match de l'année dernière, de la finale de 2023, tu penses que les Toulousains sont morts à une minute de la fin. Ntamack, il a raté sa finale. Et tout d'un coup, parce que Sotoby sort très mal, il va mettre un essai de 50 mètres pour donner la victoire. Ouais. Mais tu vois des émotions incroyables, alors transformées, parce que La Rochelle pensait gagner et Toulouse avait l'impression qu'ils allaient perdre. Mais toujours est-il que c'est ça que j'attends des finales de top 14, ou en tout cas des finales dans quelques sports que ce soit.
Okay.
Une vraie opposition. Et hier soir, il n'y en a pas eu.
Il n'y en a pas eu et on continue d'en parler. Aimez-vous ce genre de finale? Il est évidemment question d'émotion. Et puis une question pour Cyril qui a commencé à entrouvrir la porte. Est-ce que c'est bon pour le rugby? Est-ce que c'est bon pour le top 14 d'avoir ce genre de finale? On en parle dans quelques instants. Et puis, amis toulousains, vous êtes forcément réveillés. Quoique, amis bordelais, un petit peu la gueule de bois également. N'hésitez pas à composer le 32-16. À tout de suite sur RMC.
C'est incroyable, vraiment. C'est pas une finale, c'est un entraînement dirigé.
RMC jusqu'à midi.
L'esprit du jeu, le rugby, le rugby du sud, quoi.
Les grandes gueules du sport.
Incroyable.
Jean-Christophe Drouet.
Ah oui, un entraînement dirigé hier soir au Stade Vélodrome entre le Stade Toulousain et l'UBB. 9h50. Merci à tous de votre fidélité. On reste un petit peu sur cette finale du top 14 à partir de 10h. Restez bien avec nous. Les huitièmes de finale de l'Euro, ça débute dès aujourd'hui. La France, ce sera lundi. Et on parlera du SEUM belge. Le SEUM qui date de 2018. Est-ce que ça va jouer sur ce huitième de finale? Mais je le disais, cette finale du top 14, 59-3. La large victoire du Stade Toulousain. Evelyne, supportrice du Stade Toulousain, est avec nous. Elle a composé le 32-16. Bonjour Evelyne.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bon, forcément, bonjour. Je vous pose la question, Evelyne. Oui. Aimez-vous ce genre de finale?
Écoutez, moi, oui. Mais voilà, je trouve un petit peu bizarre que vous posiez la question de la façon suivante. Est-ce que vous trouvez cette finale intéressante? On dirait qu'il faut que le Stade Toulousain s'excuse d'avoir gagné par plus de 50 points et que Bordeaux-Bègles s'excuse d'avoir perdu par 3 points. Moi, je connais quand même le sport. Il me semble, le but, c'est de gagner. C'est de jouer de la meilleure des façons. J'aurais plutôt posé la question de dire pourquoi le Stade et comment le Stade Toulousain parvient-il à faire des matchs de cette ampleur dans des phases finales. Et Bordeaux, bon voilà, ils vont sûrement progresser, d'autant plus qu'avec Yannick Bru, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que c'est très énervant d'entendre toujours qu'il faudrait que Toulouse s'excuse de gagner de cette façon-là, alors que comme vous l'avez dit l'année dernière, c'était beaucoup plus serré, mais en l'occurrence, ils ont gagné. Voilà, de manière impressionnante. Et il ne faut pas qu'il s'en excuse. Et merci à Pascal Duprat d'avoir dit que alors qu'il était dans les tribunes, il s'est quand même régalé parce qu'il voit bien que cette équipe respire le jeu. Voilà. Donc,
merci à double titre. Vous comprenez.
Vous n'étiez pas d'accord au départ, Pascal. C'était
vous
moi qui étais d'accord.
Pourquoi on passe pour des méchants? Parce que le conducteur des émissions nous met en porte-à-faux.
C'est pas nous, madame. On est obligé de répondre.
Justement, c'est dommage que j'allais vous rebalancer la patate chaude. Mais donc, je la reprends. Il n'y a pas de souci. Evelyne, moi, je réponds à cette question sans aucun problème. Déjà, Evelyne, j'ai la sensation que veut prendre ma place et peut-être l'éditorial de cette émission. Et avec grand plaisir,
pourquoi pas?
Et pourquoi pas, Evelyne?
Vous avez raison.
C'était une bonne question. Sa question était une bonne question. On aurait aimé traiter sous cet angle-là.
Parce que vous êtes supportrice du Stade Toulousain. Il y a des supporters de l'UBB. Non, mais pas que. Mais par exemple, une finale de Coupe du Monde. Mais sortons du rugby. Une finale de Coupe du Monde, une autre finale. On a envie qu'il y ait du suspense, que ce soit serré. Moi, en finale de Coupe du Monde, avoir un 6-0, on apprécie.
Bon, si c'est la France qui gagne, je suis d'accord.
Non, mais je pense que tout le monde a apprécié la performance du Stade Toulousain et tout le monde a dit que c'était magique.
On l'a dit.
Mais est-ce qu'on a des émotions? Pas quand on est. On est supporter du Stade Toulousain, oui, mais sinon.
Je suis pas d'accord, on a des émotions parce que le jeu pratiqué, parce que ce que propose Toulouse, parce que l'hégémonie de cet énorme club te permet d'avoir ces émotions. Moi, j'ai eu des émotions parce que j'ai vu plein d'essais. Je suis pas un super connaisseur du rugby, mais par contre, quand je vois autant d'essais, quand je vois autant d'engagement, autant d'envie dans un club, ça me donne des émotions.
Ok, ça donne des émotions. Est-ce que c'est bon pour le top 14? Je m'adresse évidemment à l'ancien dirigeant de Canal+, notamment.
Je pense que c'est pas un souci pour le top 14. La finale de l'an dernier était très serré, celle de cette année a été large. Je pense que c'est pas un souci. Je suis absolument persuadé que la Ligue nationale de rugby, même si son président est l'ancien président du Stade Toulousain, aurait préféré une finale un peu plus serrée. Mais pour une fois, je pense que effectivement ça peut arriver et qu'on peut l'avoir sous un autre angle qui a été très bien expliqué à la fois par Fred, par Pascal et par l'auditrice Evelyne. Je crois c'est la qualité qualité du jeu du Stade Toulousain. Moi, je ferais un peu la comparaison justement entre le Stade Toulousain et le PSG en foot. Ce qui fait la différence, à mon avis, alors le niveau de compétitivité en foot est plus élevé qu'en rugby. Il y a plus d'équipes, il y a plus de concurrents qu'en rugby. On compare pas exactement les mêmes sports. Mais je trouve que Toulouse fait plus son boulot que le PSG. Pourquoi ? Parce que Toulouse, d'abord, n'est pas hégémonique. Là, ils gagnent depuis quelques années, mais enfin, pendant quelques années, ils n'ont pas gagné le championnat. Ils ont dû supporter Castres, deux fois champion de France, ça n'a pas dû leur faire plaisir. Mais surtout, Toulouse fait son boulot parce que c'est la meilleure équipe en France, mais c'est aussi la meilleure équipe en Europe. Même s'il y a trois pays qui jouent la Coupe d'Europe, il faut quand même le faire que de battre les Irlandais comme ils le font. La vraie différence, c'est que le PSG fait son boulot dans le championnat de France, c'est-à-dire qu'il a des moyens nettement supérieurs aux autres clubs, ce qui est aussi le cas du Stade Toulousain, il faut bien le reconnaître, domine et gagne toutes les compétitions, tous les titres, mais ne procure pas assez d'émotions en Coupe d'Europe et ne joue pas ce rôle de locomotive en Coupe d'Europe, malgré tout, ouais, même si la saison en fait, pour moi, c'est différent.
Oui, mais je suis d'accord, c'est différent parce que la Coupe d'Europe en football n'a pas du tout le même niveau que la Coupe d'Europe en rugby. Il n'y a pas autant de pays.
J'ai dit que c'était pas complètement comparable. Je suis d'accord. Je suis le premier à le dire. Ce n'est pas complètement comparable. Il y a trois pays. Il y en a.
Mais quand on est fort, il faut le montrer. Et il faut procurer des.
Non, mais
émotions.
je trouve que Toulouse fait son job. C'est-à-dire que s'il surdominait le championnat de France de rugby, mais qu'en même temps en Coupe d'Europe, il se faisait taper par tous les clubs irlandais qui passent, on pourrait dire, bah en gros, ils nous font une finale où ils gagnent 59-3, et en Coupe d'Europe, on les voit pas. Okay. Mais là, Toulouse fait son job. C'est la meilleure équipe de France. C'est aussi la meilleure équipe d'Europe.
Et plus d'un titre. Je voudrais faire une petite comparaison puisque je vais poursuivre sur ce que Cyril dit, et je vais aller plus loin. Les stars toulousaines, c'est des gamins bien élevés, c'est des messieurs tout le monde, c'est des gens accessibles, c'est des gens qui boutent pas sous prétexte qu'ils sont remplaçants ou sous prétexte que tout d'un coup
c'est
ils vont être
du
moins bons.
Ouais.
La deuxième chose que je voulais dire, quand vous dites que le top 14 est en danger, franchement, c'est un plaisir d'aller voir un match de rugby contre deux villes antagonistes, proches l'une de l'autre, qui se disputent la Garonne, Toulouse et Bordeaux. Pas une incivilité dans les tribunes. Même quand tu vas prendre un petit four, t'as pas un type qui te tire une tarte comme au foot pour te piquer le petit four avant toi. Tout est bien.
T'as eu des mauvaises
expériences. Que des règles de bienséance. À côté de moi, un Bordelais. Derrière moi, un Toulousain. Les mecs, ils se chambrent même pas. Ils se respectent à la fin du match. Ils se serrent la main. C'est génial. Vraiment génial. J'ai passé une soirée, sauf sur le terrain, parce qu'il y avait trop de différences. Mais c'est génial.
Mais Bordeaux, c'est quand même une bonne saison. Faut en parler quand même de ça. C'est ce qui fait quand même une très bonne saison, Bordeaux.
Ouais, tu l'as dit, je pense que voilà, ça suffit. Merci beaucoup, Wilfried Templier, d'avoir été avec nous. Et évidemment, tu seras à Toulouse.
Tu écouteras le podcast entre les poteaux pour avoir tout ça.
Tu seras
en direct de Toulouse tout au long de la journée, parce que forcément, il y aura une belle cérémonie. Place du Capitole. Evelyne, on se quitte pas fâché.
Non, du tout. Peut-être que vous pouvez du coup dire que peut-être aussi on aurait pu être champion du monde si Dupont et Tamac n'avaient pas été blessés.
On en a fait des débats. Allez, Toulousains sont fiers. Merci Evelyne et merci de votre fidélité. À bientôt sur RMC. 9h56, on se retrouve dans quelques instants. France-Belgique, 8e de finale. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h09 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Fred Weiss, Cyril Linette, Pascal Duprat, Ludovic Duchesne, France-Belgique en 8e de finale de l'Euro, le retour du Seum. Est-ce que ça va peser? Est-ce que ça va jouer dans cette rencontre? C'est bras de fer des GG dans quelques instants. Le salaire de Vincent Labrune pose-t-il problème? Le patron de la LFP a dû s'expliquer cette semaine devant le Sénat, lui qui a triplé ses revenus grâce à CVC. Et alors que la Ligue 1 est au bord de la crise, ce sera la punchline à 10h30. Et puis le grand départ du Tour de France à partir de 11h. Nous serons en direct de Florence. Tadej Pogacar est le grandissime favori. Le suspense est-il déjà mort? Justement dans les grandes gueules du sport. Ah, pour vous habituer à cette petite musique qui fait son retour, l'occasion du départ du Tour de France, nous vous offrons deux places dans la caravane du Tour de France avec Tourtel Twist. Vous assisterez à l'arrivée de l'étape du jour dans un espace VIP situé sur la ligne d'arrivée. La personne tirée au sort pourra choisir parmi 4 étapes pour gagner vos deux places dans la caravane du Tour de France avec Tourtel Twist plus l'accès VIP. Eh bien, vous envoyez Tour dès maintenant, Tour T-O-U-R au 7-32-16. Le grand gagnant sera là avec nous en direct dans une heure maintenant. Allez, tout de suite, c'était le 10 juillet 2018.
RMC, Le bras de fer GG.
C'est fini. La France est en finale de la Coupe du Monde 2018.
Je dirais pas que l'équipe en face est meilleure que nous.
Attention, De Bruyne avec Hazard, la frappe d'Hazard à côté.
C'est dommage, mais bon, ça c'est le foot.
Double accélération d'Eden Hazard. Pas de faute, attention, dans la séparation. Lukaku qui la talonne pour Hazard. Hazard face à. Non, il n'y a pas tout le coup franc de Giroud. Il n'y a pas la faute. Ouais, ils s'en sortent bien les joueurs de l'équipe de France.
Sur les détails, chaque équipe joue à leur force.
Mertens devant le but. Le ballon dégagé de la tête. Pas pavard. Faut monter sur De Bruyne. Il loupe sa demi-volée.
Notre force, obviously, c'est avec le foot. Leur force, c'est défendre.
Par contre, on voit des Belges s'agacer.
Il y a un but en corner et c'est dommage.
La frappe de Griezmann. La tête de qui? Doumtiti, Samuel, Doumtiti au premier poteau.
Le seum, c'est un mot désormais inscrit dans le dictionnaire, langage familier certes, mais très utilisé. Avoir le seum, être très énervé, dégoûté, avoir la haine. C'est exactement le sentiment des Belges après la défaite en demi-finale de Coupe du Monde 2018 face à l'équipe de France. Une défaite traumatisante pour les joueurs et tout un pays qui s'estimait plus fort que les Bleus ce soir-là. La dernière heure, quotidien belge a même fait un vœu cette semaine. Deux points, ouvrez les guillemets. Autant de notre vocabulaire à tout jamais, le mot seum. Notre débat, la revanche du seum. Est-ce que ça va jouer sur cette rencontre? Dans le coin gauche, la team, oui, représentée par Fred Weiss. Et il est tout seul dans le coin droit, la team, non. Pascal Duprat, Célinette, Ludovic Duchesne, le retour du sadique évidemment. Avant de débattre, on va retrouver notre envoyé spécial à Stuttgart auprès de la Belgique, c'est Nicolas Pelletier. Bonjour Nicolas.
Salut à tous.
Les Belges ont-ils toujours le seum?
Oh, sans même évoquer le mot seum dans la question, sans même évoquer le représentant du seum, Thibaut Courtois, absent pour 7 euros, les supporters belges abordent le sujet tout seuls.
Bon, Courtois n'est pas là, il y a une petite guerre entre les Français et les Belges. J'espère que ça va bien se passer, qu'on va pas parler du seum.
Nous, le seum, on a l'habitude, on l'a travaillé pendant plusieurs années. Donc maintenant, on va essayer de passer le seum à la France. Comme ça, on est sûr de prendre notre revanche, quoi.
Je pense que ça va être encore une défaite pour la Belgique, malheureusement. Et on va encore en entendre parler pendant 4 ans.
Les souvenirs sont mauvais pour les Belges. En conférence de presse jeudi, le défenseur Thomas Meunier a raconté son traumatisme après l'élimination de 2018. Dans la presse, l'ancien du PSG avait fortement critiqué le jeu des Bleus.
Je la sens un peu moins depuis que j'ai quitté Paris, je vous avoue. Là, je l'avais dans les oreilles assez constamment. Ça reste toujours bon enfant, c'est le principal. On n'aura pas vraiment le droit non plus de trop fanfaronner parce que le passé a déjà écrit un petit peu l'histoire. Et si la France nous bat, ils diront, les Belges, c'est toujours la même chose, quoi.
Que les Belges se rassurent, le jeu développé par l'équipe de France devrait être sensiblement le même. Lundi soir, Loïc Vos, journaliste et suiveur de l'équipe nationale pour le média Wallfoot, estime que la France est un voisin un peu trop bruyant.
Oui, il n'y aura pas Thibaut Courtois qui a le droit du seum, c'est vrai. Je pense qu'en Belgique, il y a eu un peu d'agacement par rapport à ça. Un sentiment de... Les Français reviennent tout le temps à la charge. Tout le temps à la charge. Ils veulent nous marcher dessus. Le fait d'entendre déjà 3 jours avant le match, cette Belgique n'a rien, on n'a pas le droit de perdre contre eux, ça serait scandaleux. Ça rappelle presque l'Euro 21 de France-Suisse, en fait. Vos éditeurs se rappellent de la séance de pénalty de ce France-Suisse.
Un pays lassé des railleries françaises depuis 6 ans. Manu Joss est le commentateur des Diables Rouges pour la RTBF 2018. Reste ancré dans sa mémoire, mais il pense aussi à un autre match.
On a quand même eu un autre depuis, ne l'oublions pas. C'était dans la phase finale de la Ligue des Nations à Turin, avec là aussi un scénario quand même assez incroyable. Une première mi-temps excellente de la part de la Belgique. Et au final, on se fait quand même là aussi éliminer par la France. Donc il y a quand même toujours ce petit plafond de verre et cette vérité historique qui veut finalement que, pour schématiser, la France, on la bat toujours en match amical et jamais en match officiel, ce qui est un petit peu un problème.
Mais ces derniers temps, la Belgique est sous tension. Les sifflets du public belge après le match contre l'Ukraine ne passent pas, mais un grand match arrive face à la France. Ils seront tous derrière leur équipe lundi soir. Il n'y a rien de mieux qu'une revanche face aux voisins français pour créer une union sacrée.
Merci beaucoup Nicolas Pelletier pour ces réactions des Belges à 2 jours de cette rencontre, la revanche du seum. Est-ce que ça peut jouer sur cette rencontre, oui ou non? On vous a posé la question sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. Pour l'instant, c'est extrêmement serré. Hein. Ouais. C'est oui 44%, non 56%. Fred, tu es quand même derrière, tu es tout seul, tu commences. Pourquoi oui? Pourquoi
alors, ça va oui, jouer? Alors déjà, je viens de découvrir ce qu'était le multiverse. Alors, parce que Pascal Duprat, qui est un coach, qui est un grand coach, un homme que j'admire, est en train de me dire qu'il se servirait pas de ce biais pour motiver ses troupes. Je suis extrêmement surpris. Parce que quoi de mieux que pour motiver ses troupes, justement, parler du passé, parler de ce qui s'est passé, attiser cette haine, attiser la motivation de ses joueurs, que de parler de ce seum. Je suis extrêmement surpris. Après, les gens vont me dire, les joueurs n'y étaient pas. Sauf qu'ils ont été bercés, biberonnés à ça. On leur en parle tous les jours. Les supporters, il suffit de voir ce qui se passe dans les médias. Il suffit de voir quand on interroge des supporters, qu'est-ce qu'ils disent? On va leur refiler le seum. Oui. On est revanchards, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Cette haine, elle s'est transmise à cette génération. Et le coach, sinon ce serait le pire coach possible et imaginable, il va transmettre cette idée, et je sais que Pascal dit évidemment qu'il me servirait de biais pour motiver mes troupes, parce que c'est logique, la haine, la revanche, c'est le meilleur biais. Pensez à Michael Jordan qui disait, je le prends personnellement, les Belges l'ont pris personnellement, non, mais... et ils vont être ultra motivés grâce à ce seum.
Arrêtons le débat, il a gagné Fred. Non, franchement, ouais, c'est très convaincant, Fred. Pascal,
t'as
été interpellé, Pascal, t'es obligé de répondre, et je rappelle juste que tu parlais de l'équipe belge qui a changé. Quand même, il y en a 5 qui ont participé à ce somme. Hein. Il y a De Bruyne, Lukaku, Tillmans.
Oui, mais
il y en a que deux qui sont titulaires.
Hein. Bah, peut-être que deux qui sont titulaires. Lukaku, mais voilà. quand on parle de somme, on dit souvent c'est un truc de supporters. Mais pardon, ça a été quand même lancé par les joueurs eux-mêmes en après-match et qui en ont fait des tonnes aussi. Pascal, tu as été interpellé.
Ça, surtout, réponds. Ce qui incarne le somme de 2018, c'est la déclaration de Thibaut Courtois après le match. Lui, pour le coup, il nous a fracassés. Il a dit qu'on jouait pas et qu'ils étaient les meilleurs, qu'ils sont pas joués, qu'il avait la haine, donc il avait le seum. Or, Thibaut Courtois, il refuse d'aller en sélection. Parce que depuis quelques temps, on lui avait pas filé le brassard, donc il refuse d'aller en sélection. Donc déjà ça, c'est un argument qui est favorable au fait que le seum n'aura aucune incidence. En plus, en 2018, la Belgique est devenue numéro 1 mondial à l'indice FIFA, donc elle représentait l'équipe à
c'est toujours
à
le petit contre c'était, le grand, c'est le petit
non, mais
frère
c'était
qui
le favori du mondial. C'était le favori du mondial, et crois-moi, en termes de jeu, c'était bien meilleur que la Belgique d'aujourd'hui. De Bruyne, il est un peu en dessous par rapport à ce qu'il était. Il était incroyablement bon à ce moment-là, et il y avait un milieu de terrain fantastique. Fellaini, Hazard, et j'en passe, et des meilleurs. L'équipe de France, j'en appelle à la mémoire. En 2018, les matchs de poule, les trois matchs, aussi médiocres.
Mais parce qu'elle commence à nous embrouiller. Moi, je t'ai posé une question simple. Est-ce que tu te servirais du biais, du seum, si t'étais coach, oui ou non?
Je pense que dans ce cas de figure-là, ça serait une erreur. Parce que les Belges sont inférieurs aux Français. Donc, si tu vas que dans l'émotion, je pense que les Belges vont encore perdre.
Justement, quand t'es inférieur, il faut trouver un autre biais pour l'émotion.
Non, mais Fred, sur ce coup-là. Je te redonne la main. C'est un truc de supporters, en fait, que les supporters en reparlent. Pourquoi pas, ils ont été traumatisés. D'ailleurs, ils sont tous très pessimistes sur ce match à venir. Il y a trois joueurs qui jouent aujourd'hui qui sont encore d'actualité. C'est Vertonghen, De Bruyne et Lukaku qui étaient présents à l'époque.
Je pense que tout le monde
est passé à autre chose. Je pense que Thomas Meunier a dit le mot juste. Il a parlé de chamaillerie. Ça va pas plus loin. On a rejoué contre eux. Il y a une nouvelle défaite des Belges.
Ils l'ont dans la tête. Pourquoi imagine s'ils reperdaient une nouvelle fois le double seum. Je t'assure qu'ils ne sont pas là.
Pourquoi on a parlé de seum à l'époque, puisque c'est vrai que peut-être ils ont eu leur meilleure génération. Donc ils avaient une occasion incroyable d'aller en finale et peut-être de la gagner, ce qui ne leur est jamais arrivé. C'est plus du tout le cas.
Est-ce que psychologiquement, on est rentré dans leur tête?
Mais bien sûr que oui.
C'est ça, en fait.
L'équipe de France joue aussi là, peut-être. L'équipe de France, ces dernières années, a donné ce sentiment de pouvoir être battue sur des matchs qu'elle a gagnés. Moi, je me rappelle de l'Euro, une demi-finale contre l'Allemagne, c'était la même chose. Le quart de finale au dernier mondial contre l'Angleterre, c'était la même chose. L'équipe adverse a toujours ce sentiment qu'elle peut gagner, mais avec Didier Deschamps, c'est toujours à la fin la France qui gagne.
Mais justement,
c'était déjà la même chose avec la Belgique.
Mais
les joueurs, ils sont passés à autre chose parce qu'ils ont eu d'autres événements, ils ont eu d'autres matchs.
Les supporters sont là pour le rappeler. Et les quelques joueurs qui subsistent sont là pour le rappeler.
Cyril, Pascal, je te redonne la main. Cyril Linette.
Oui, non, mais moi, je trouve ça marrant, cette histoire de seum. C'est un levier comme un autre. Il faut rappeler que la France et la Belgique, c'est la Belgique est le pays qu'on a le plus rencontré dans notre histoire. 75 confrontations. La première en 1904, on fait 3-3, la deuxième en 1905, on perd 7-0. Donc il y a peut-être un seum qui date pour l'équipe de France de 1905. Et pendant pendant des années, on a joué jusqu'aux années 70, tous les ans, un match France-Belgique qui s'appelait le match sympathique. Hein, c'était une manière de dire, voilà, ce sont deux pays qui s'entendent bien. Non, moi je pense que ça peut jouer à la marge, mais pourquoi j'ai plutôt répondu non, même si je suis très sensible aux arguments de Fred, c'est parce que je pense, comme Pascal, que ce serait une erreur pour l'un et l'autre des des sélectionneurs et surtout pour les sélectionneurs belges d'aller là-dessus, parce que son équipe, elle a rien à voir avec 2018. C'est une équipe déclopée. Le sujet des supporters belges, c'est pas tellement la revanche contre l'équipe de France. C'est plutôt vous êtes nuls, on vous cive quand vous qualifiez avec après un 0-0 piteux contre l'Ukraine. Ils sont obligés de rebrousser chemin quand ils se dirigent vers les tribunes. Donc j'ai l'impression que l'enjeu pour la Belgique, c'est de sauver une compétition alors même qu'ils ont une équipe qui a pas du tout le même niveau qu'en 2018. Et on n'est pas très loin quand même d'être sur le même plan du côté de l'équipe de France. On a quand même un peu deux éclopés du premier tour.
Donc qui vont deux éclopés du premier tour.
Deux équipes qui n'ont pas du tout prévu de se rencontrer.
Comment les différencier justement quand deux équipes sont éclopées, que tu essayes de faire passer la pression sur autre chose, sur dire effectivement on a été nul sur le premier tour, on sait qu'on est plutôt jugé sur ça. Ah ben on va essayer de passer ça sur le seum, essayer de se faire accompagner par le public.
Mais Fred, t'es sportif de haut niveau, l'enjeu est situé autrement. Le sélectionneur.
Mais tu vois, j'ai un exemple en plus très concret par rapport à ça.
Mais non, mais l'enjeu aujourd'hui, par exemple, t'as pris Pascal à partie, mais le sélectionneur n'est plus le même aujourd'hui. Domenico Tedesco, il est loin de tout ça.
Mais non,
il n'était pas là à l'époque.
C'est
fou.
Aujourd'hui, c'est pas
le sélectionneur
qui est important.
Il a déjà assez de soucis avec son équipe aujourd'hui. Il se fait siffler après un match contre l'Ukraine. La Belgique a été battue contre la Slovaquie. Ils ont d'autres soucis que l'équipe de France.
Ils ont ces soucis-là
à la rue totale.
Pour essayer de réveiller un petit peu le patriotisme, pour réveiller un petit peu l'énergie, c'est ça. Et donc, je vais te raconter une anecdote. Moi, je suis né en Lorraine, d'accord ? Donc, rien à voir avec Limoges Pau. Par exemple,
ben c'est pas grave.
Je suis arrivé à Limoges, je n'avais jamais joué contre Pau, j'ai détesté déjà. Et qu'est-ce que ça donnait? Quand je jouais contre eux, j'étais surmotivé. Pourquoi? Parce que je les détestais. C'est exactement ce qu'ils vont essayer de faire. Essayer de motiver les joueurs à détester encore plus les Français pour avoir ce petit surplus de motivation qui te permet, quand le jeu est à un match
égal. Bien essayé, mais ils t'ont dit que non. Ils t'ont répondu. Thomas Meunier l'a dit que c'était autre chose. S'il parle de chamaillerie, ça n'existe plus.
C'est pas parce qu'il le dit en conférence de presse qu'on est obligé de le croire.
Mais c'est sûr qu'ils disent que la vérité.
En fait, de toute façon, qu'il y ait besoin d'un supplément d'able pour la France ou pour la Belgique, ça tombe sous le sens. C'est quand même un huitième de finale de championnat d'Europe, c'est pas neutre. Donc, fatalement, tout le monde va être extrêmement motivé. L'objectif, c'est de battre l'équipe adverse, c'est de faire en sorte qu'on les déteste. Chacun se prépare à sa manière. Mais le plus important pour la Belgique, c'est de maîtriser son milieu de terrain, c'est de maîtriser son football, et c'est de faire en sorte que Lukaku, il frappe une fois de temps en temps cadré, pour espérer marquer un but à l'équipe de France, qui est infranchissable derrière.
On est au-delà de France, du technique, Pascal. On est au-delà du technique dans ce genre de match. On est dans le ressenti.
Alors à ce moment-là, ça voudrait dire que jamais une seule fois, parce que
on
peut pas jouer que sur ses valeurs, Fred.
Non, mais ce que j'aime, c'est normal,
Pascal.
C'est dommage que je puisse pas finir. Ce que je voulais vous dire, c'est que je suis pas en train de dire que la France va gagner facile. Attention, le match va être très compliqué. Mais de mon point de vue, si les Belges sont uniquement sur les émotions et les ressentis sur l'équipe de France qui les torche en permanence, c'est pas la bonne manière de gagner contre l'équipe de France.
C'est plutôt se faire
un complexe supplémentaire.
Voilà. Je suis d'accord, uniquement non, mais ça fait partie des petits suppléments d'âme qui te permettent de gagner des matchs.
Okay. On sent le sportif, Fred. On sent le mec qui a connu la transpiration des vestiaires. Bien, Fred.
je reprends la main parce qu'on parle surtout du côté belge, mais maintenant côté français. On va retrouver en Allemagne Jeannot Rességuier, l'un de nos suiveurs, la voix du foot sur RMC évidemment. Bonjour Jeannot.
Bonjour tout le monde.
Salut Jeannot.
Bonjour. Est-ce que les Français en parlent? Est-ce que les Français craignent aussi les Belges, même s'ils ont l'habitude en compétition officielle, on l'a dit, de gagner face à eux?
Alors, même si les Bleus savent que de toute façon rien n'est parfait chez eux aussi, ils se sont rendus compte en voyant les matchs des Belges sur les écrans de leur camp de base que leurs adversaires n'étaient quand même pas mieux lotis. Alors, beaucoup de joueurs ont disparu depuis ce 10 juillet 2018, vous en parliez, mais le seum est toujours là, d'autant qu'il y a eu cette défaite en demi-finale à Ligue des Nations en 2021 avec un scénario assez catastrophique pour les Belges. Alors, le discours est bien rodé chez les Belges, et quand Wout Faes dit qu'il n'a pas peur des Bleus, cela n'inquiète pas du tout, mais pas du tous les joueurs de l'équipe de France. William Saliba, d'ailleurs, en a même souri.
Nous aussi, on n'a pas peur de la Belgique. On n'a peur de personne. Et s'il n'a pas peur de nous, tant mieux pour lui. On verra lundi et on va tout faire pour gagner.
Et voilà, tout faire pour gagner, c'est effectivement un autre tournoi qui débute avec l'élimination possible à chaque match. Donc un autre discours de la part de Didier Deschamps, une autre préparation, et avec en plus 6 jours pour justement travailler ce 8e de finale. C'est tout ce que préfère le sélectionneur Didier Deschamps.
Évidemment, je reviendrai te voir pour connaître le planning un peu de nos bleus. Il y a une conférence de presse qui va débuter dans une heure tout au long du week-end avant ce 8e de finale. Pascal Duprat, je voudrais venir te voir, toi, l'entraîneur Didier Deschamps. Est-ce que pour toi, tu considères que c'est le point de départ de la France qui cristallise ce jeu, j'ai envie de dire, pardonnez-moi, je vais me laver la bouche après, chiant.
Ugly.
En fait, ouais, est-ce que ce match, est-ce que cette demi-finale est rentrée dans la tête des Belges, mais également de nos adversaires? Tu citais le match face à l'Angleterre.
C'est un lieu commun.
En quart de finale, c'est un lieu commun.
L'Allemagne aussi.
C'est un lieu commun parce que tu penses que c'est pour les Belges ou pour les Portugais, les Espagnols qui viennent d'apprendre, qui sont dans leur côté du chapeau. Tu penses qu'ils sont tranquilles si jamais ils venaient rencontrer l'équipe de France? Non, l'équipe de France est une équipe qui est crainte parce que c'est une des meilleures équipes du monde. Et l'équipe de France, elle a pas pour habitude de réussir, à part se qualifier, ses premiers tours, les tours, on va dire, qualificatifs pour les matchs à coup près. Et à partir de là, eh bien, la France, et Didier Deschamps, il a l'habitude de se faire critiquer.
Pas tout à fait d'accord, Pascal, quand même. Parce que pour les
il a l'habitude de se faire critiquer. Ouais, mais... Quand il gagne le mondial en 2018, le premier tour était aussi indigeste,
honnêtement,
les matchs de l'équipe de France. S'il n'avait pas beaucoup de certitudes défensives, et aujourd'hui, ses deux meilleurs joueurs, Mbappé et Griezmann, ont pas commencé leur tournoi.
Ouais,
ça va venir. Ça va venir.
Si je peux,
c'est une prédiction.
Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que la maîtrise de Didier Deschamps, bon, Mbappé se casse le nez au premier match, c'était pas prévu. Deux, ils jouent le deuxième match pour se qualifier. Ils ne se qualifient pas, ils font match nul. Trois, ils jouent le troisième match pour finir premier du groupe. Ils ne finissent pas premier du groupe. Donc pour le moment, pour l'équipe de France, rien, contrairement à ce que dit Didier Deschamps, ce n'est pas grave. Ils vont se refaire. Mais rien, absolument rien, ne s'est passé comme prévu sur ce premier tour. On a perdu Mbappé, en tout cas, il est diminué. On sait que Griezmann n'est pas en forme. On n'a pas fini premier du groupe. Et on se tape la plus grosse partie du tableau, alors qu'on avait tout lieu de, quand même de l'éviter. Donc, okay,
et on ne marque pas des buts, ce qui le chagrine énormément.
Voilà, ça réjouit peut-être pas les adversaires, mais
on se crée les occasions.
On ne peut pas dire que le début de cet euro ait été maîtrisé par l'équipe de France. On est à l'envers pour le moment.
Ok, je reprends la main. Jeannot Rességuier, rapidement le programme du week-end, là, jusqu'à ce huitième de finale pour les Bleus.
Juste quand même, parce que c'est ce qui, on va dire, nous intéresse au quotidien. Kylian Mbappé a reçu un nouveau masque qu'il a étreigné hier à l'entraînement, qui remonte un petit peu plus au-dessus du nez et un peu plus plaqué sur le visage, donc beaucoup plus supportable et derrière lequel il transpire beaucoup moins. Tous les joueurs étaient présents à l'entraînement hier. Coman va être papa pour la quatrième fois et devrait rejoindre son épouse en Suède dans les prochaines heures. Donc il va
faire des bonnes nouvelles.
Le groupe, comme ça avait été le cas, souvenez-vous, pour son troisième enfant en 2021. Antoine Griezmann, son retour titulaire se confirme, mais pas encore coach Duprat, le système tactique. On verra ce qui va se passer dans les prochaines séances d'entraînement. Conférence de presse, tu l'as dit Jean-Christophe, 11h30 à Paderborn, on aura Konaté et Kamavinga, et puis entraînement à 17h30 qui sera ouvert seulement 15 minutes des séances d'entraînement où pour les journalistes, les observateurs, ceux qui tentent de craquer les huis clos, non, nous n'obtenons aucune information, ce qui prouve bien qu'on est dans un autre tournoi pour Didier Deschamps, et les Bleus partiront demain pour Düsseldorf, certainement après un entraînement ici à Paderborn, parce que la dernière fois qu'ils ont joué à Düsseldorf, ils s'étaient retrouvés à l'autre bout de la ville dans un stade qui était ouvert aux 80 et ça n'avait pas plu du tout aux sélectionneurs.
Merci beaucoup Jeannot Rességuier pour ces dernières informations.
Merci,
dans une heure, donc la conférence de presse, évidemment on passera une petite tête pour écouter nos Bleus à deux jours de ce huitième de finale face à la Belgique. Merci beaucoup Nicolas Pelletier d'avoir été également avec nous en direct de Stuttgart pour nous rapporter des propos belges. Et puis nous avions un bras de fer à faire tout de même, il ne faut pas l'oublier, nous sommes partis à 56%, non ça ne va pas jouer, contre 44% oui. Eh bien, je suis d'accord avec vous, il s'est superbement bien battu, Fred Weiss. Et pourtant, il a perdu deux points encore.
Ah, voilà.
C'est du 58-42 désormais. Ouais. Fred.
Et pourtant, je vous prends tous au bras de fer.
Non, mais Fred, tu sais bien que c'est truqué.
Oui, je me doute.
Allez, on se retrouve dans quelques instants pour parler.
J'ai une somme et je vais le garder.
On va parler d'argent. Est-ce que le salaire de Vincent Labrune pose problème? A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Voilà, il n'était pas en train de se marrer, évidemment. On vous a rediffusé quelques extraits de Pascal Duprat. Voilà, qui rigole, qui le débat, il ferraille avec notamment Fred Weiss. Mais il s'amuse dans cette émission. Toujours avec donc Fred Weiss, Pascal Duprat, Cyril Linette, Ludovic Duchesne dans une dizaine de minutes. Le zapping des GG, on s'en fout pas. Des informations à vous donner, vous me direz si ça vous intéresse ou non. Notamment la Russie qui a décidé de ne pas envoyer de judoka à Paris pour les Jeux Olympiques. Décision forte de la Fédération Russe de Judo. On en parlera ou pas. Ça dépend de vous, évidemment. Alain Boschung chantait « Ma petite entreprise ne connaît pas la crise », une phrase qui pourrait parfaitement s'appliquer à Vincent Labrune, le président de la Ligue de football professionnel, qui a dû s'expliquer mercredi sur sa rémunération devant le Sénat, une rémunération qui a triplé depuis l'arrivée de CVC en 2022, alors que le foot français, vous le savez, est en pleine crise des droits TV. C'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Le conseil d'administration de la Ligue, en l'occurrence les présidents de club qui sont souverains sur ce type de décision, ont décidé de porter ma rémunération à 1 200 000 euros brut annuel, considérant que l'investissement qui avait été le mien, les responsabilités qui sont les miennes, les crises que nous avons traversées, les succès que nous avons rencontrés, les prix de marché et le benchmark européen des rémunérations européennes méritait ce type de rémunération effectivement depuis septembre-octobre 2022.
Pas facile hein, de s'expliquer sur son salaire, évidemment, surtout quand c'est télévisé. En plus, j'ajoute que Vincent Labrune a touché une prime de 3 millions d'euros après l'accord passé avec CVC, en plus évidemment de la rémunération qui a triplé. Son salaire pose-t-il problème ? Oui ou non ? Fred Weiss ?
Non.
Ludovic Duchesne ?
Oui.
Cyril Linette ?
Non.
Pascal Duprat ?
Non.
Cyril Linette, pourquoi non?
Fred est encore tout seul?
Non, c'est Ludo.
Un million 200 000 euros, ça va paraître beaucoup, évidemment, à 99,9% de nos auditeurs, et je le comprends, mais c'est un salaire assez aligné sur ce que peut être celui d'un patron d'entreprise. Il y a des benchmarks qui sont réalisés, comme l'a dit Vincent Labrune, pour une industrie à 1 milliard d'euros, à peu près, et quand on compare, effectivement, à d'autres présidents de grandes ligues européennes. C'est peut-être le moment d'expliquer, d'ailleurs, comment s'établit un salaire. Hein. À part quand on a sa boîte, on ne décide pas soi-même de son salaire. Il y a un conseil d'administration, c'est ce que Vincent Labrune a expliqué, et c'est le conseil d'administration qui a décidé souverainement de tripler son salaire. Parfois, il y a même un comité des rémunérations dans les entreprises et tout ça est fait très sérieusement. Moi, ce qui m'étonne un peu plus quand même, c'est qu'on n'entende pas parler de parts variables. Bon, il y a eu l'histoire de la prime, effectivement, mais CVC a amené 1,5 milliard au football français. On sait qu'il y a un parachute actionnable en cas de départ, des indemnités de départ, que le dirigeant peut actionner lui-même. Ça arrive dans certaines entreprises. C'est évidemment très profitable au dirigeant quand il peut le faire de lui-même. C'est pas simplement soumis à la décision du conseil. Mais en général, les patrons d'entreprise, leur rémunération qui peut atteindre facilement ces niveaux-là, elle est quand même très fortement conditionnée à une part variable. Souvent, la moitié du salaire, voire les deux tiers du salaire, correspond à une part variable qui est fixée en fonction d'objectifs quantitatifs ou qualitatifs. Et là, évidemment, l'objectif de négociation des droits télé aurait pu figurer comme un objectif majeur dans la rémunération. Ça me laisse à penser que, encore une fois, et c'est pas la responsabilité personnelle de l'un ou de l'autre, mais encore une fois, je pense que le football français a été assez léger sur tous ces éléments de discussion, comme ils le sont sur à peu près tous les sujets business de la LFP, et que moi je pourrais de nouveau encourager les présidents du football français à appliquer au niveau de leur passion qui est le football les mêmes règles que celles qu'ils essaient d'appliquer dans leurs entreprises. Ce serait beaucoup plus sérieux. Donc c'est pas du tout personnel lié à l'un ou à l'autre, mais globalement ça donne l'impression d'avoir été, comme toujours, géré de manière un tout petit peu légère.
Dans ce contexte, évidemment, on a du mal à comprendre, même si c'est une rémunération qui date de 2022, mais quand on la prend aujourd'hui comme ça et qu'on la prend, on se dit, mais comment c'est possible ? Et j'imagine que ça, c'est ce point-là qui t'a choqué, Ludovic.
Oui, moi, je n'ai rien contre les gens qui gagnent beaucoup d'argent. Ici, dans cette émission...
Pourquoi tu regardes ici directement ?
Non, mais ici, dans cette émission, on a des dirigeants d'entreprise. Cyril, on a des joueurs de basket. Fred, on a un entraîneur, Pascal. Ils ont côtoyé, ou eux-mêmes, peut-être, ont touché d'énormes sommes d'argent. Ça ne me gêne absolument pas. Le truc, c'est que, vu la situation aujourd'hui du football français, et le principal objet qui était les droits TV, qui datent depuis l'été dernier quand même aujourd'hui, et on n'a toujours pas l'once du début d'une solution, je suis gêné par rapport à ces sommes, oui, puisque le football français va ou est déjà dans une grande, grande difficulté. Je trouve que ça manque de transparence, je trouve tout ça assez opaque. D'ailleurs, Michel Savin, donc le sénateur et le rapporteur de cette commission, s'il y a une commission, c'est bien aussi qu'il y a des soucis quelque part, a démontré que il y avait des gros soucis, par exemple au niveau du conseil d'administration qui a décidé de
c'est très nébuleux, ça c'est pour le moment,
voilà,
c'est
qui a
très
décidé nébuleux. De donner ces sommes. Les présidents ont appris eux aussi a priori qui payait ou combien on devait donner à Vincent Labrune. Je trouve que c'est quand même assez grotesque. Et dernière chose, je trouve aussi que cette somme et ces bonus, ce parachute en fait, devait être donné à Labrune. Il sera donné de toute façon, mais en cas de départ ou s'il n'est pas
volontaire.
Élu, voilà, ou s'il n'est pas réélu en septembre prochain. Il se trouve qu'il se représente, donc c'est déjà un souci. Et comme le dit le rapporteur et le sénateur, comme il travaille moins, puisque aujourd'hui il a créé une société commerciale, il travaille moins, il touche plus, son salaire a été multiplié par 3. Ça fait trop, c'est beaucoup trop. Mais et
c'est là que le problème.
Et on reparlera du parachute dans quelques instants. Mais juste un exemple, parce que Le Havre, qui est en procédure judiciaire, hein, le club du Havre, en procédure judiciaire contre CVC, parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas tous touché, et c'est le seul club, hein, pas touché assez d'argent de CVC au moment de la crise, et pour cause. Seulement 1,5 million d'euros dans leur caisse après l'accord passé avec CVC de plus d'un milliard, contre au moins 33 millions pour 14 des autres clubs de l'élite. Donc ils se sentent floués évidemment. Et cette semaine, on a tout de même appris que Le Havre était le seul club de Ligue 1 sanctionné par la DNCG qui va encadrer la masse salariale.
Il n'y a pas de relation, même si la DNCG marche main dans la main avec la LFP. Je pense que ça, on l'a bien compris. Il n'y a pas de relation, si ce n'est que Le Havre n'ayant pas touché beaucoup d'argent se retrouve en difficulté financière. Après, on ne peut pas comparer le salaire d'un dirigeant. C'est un salaire qui est imposé, hein, 1,2 million. Une fois que vous êtes imposé, il touche à peine la moitié.
Bien sûr, mais
c'est pas
l'image,
tout à fait pareil. C'est pas tout à fait la même chose.
Quand il touche une prime de 3 millions d'euros et que Le Havre, club de Ligue 1, touche 1,5 million d'euros.
En fait, le problème, c'est pas l'argent.
Je peux pas faire de la démagogie.
L'argent, c'est jamais le problème. Le problème, c'est les résultats. Et effectivement, si la Ligue avait signé avec un diffuseur pour 1 milliard, tout le monde dirait, mais c'est normal qu'il touche cet argent. Et donc, c'est là que
se situe. Rapporté au résultat,
c'est pour ça que dans les entreprises, on met une part variable.
Ça peut poser un vrai problème. Mais les sommes qu'il touche, c'est des sommes normales pour quelqu'un qui a des responsabilités énormes, de chef d'entreprise qui fait énormément de chiffre d'affaires. Donc c'est assez logique. Mais encore une fois, ça revient sur la table parce que ça ne va pas fonctionner. Si ça fonctionne, personne ne dit rien.
Je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que c'est.
En fait,
que ça n'a pas fonctionné. Il faut faire. J'en appelle à votre mémoire. Vincent Labrine et ses équipes, ils ont réussi à obtenir 1,5 milliard en créant une société commerciale. Et ça a déjà
à quelles conditions
bien aidé. Ça a aidé le football français qui était à l'agonie déjà à cette période-là. Donc
mais évidemment.
Donc ça, on peut pas le reprocher d'avoir défendu son salaire. Et ce sont les présidents de club, ou en tout cas le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel, qui agit pour tous les présidents de club par délégation, qui a décidé de lui donner son salaire. Moi, ce qui me choque, c'est le fait qu'il ait une double casquette. C'est qu'il soit aussi président de la société commerciale, qu'il a le droit, hein, mais que les dirigeants n'aient pas été suffisamment vigilants pour verrouiller quand même, pour pas lui donner toute puissance à...
Alors, LFP en personne morale qui est présidente et donc il agit comme un membre actif de la LFP dans cette nouvelle société.
Mais c'est normal que les présidents de club auraient pu mettre un verrou supplémentaire.
Ça je suis d'accord.
C'est normal président de club à la tête de cette société commerciale.
C'est normal qu'il soit rémunéré pour être à la tête de cette société commerciale du fait que justement ce n'est pas lui le président, c'est la LFP en tant que personne physique.
Ce qui n'est pas normal, c'est que les présidents et le conseil d'administration apprennent énormément de choses avec cette commission.
Je suis pas certain qu'ils apprennent. S'ils apprennent, alors ils se mettent en défaut. Ça veut dire qu'ils ne sont pas vigilants.
J'ai connu ce type de gouvernance à la tête du PMU, puisque c'est pareil, c'est l'émanation effectivement des sociétés de course. Il y a un conseil d'administration. On avait un conseil quand même assez professionnel. Moi, je crois que le conseil d'administration de la LFP, les présidents, est un peu trop léger. Je ne pense pas que ce soit nébuleux. Je ne vois pas d'embrouille derrière tout ça. Je pense que c'est léger. Ils ne lisent pas suffisamment.
C'est nébuleux parce que les patrons de CVC ne sont pas capables de dire oui. On reverse ça. Et dans ce sens-là,
je pense qu'ils ne lisent pas suffisamment
les. Mais
Kita et Nicolas ont dit on n'a pas bien lu le pacte d'actionnaires dans la même audition.
Même CVC.
Je pense que tout ça est un petit peu léger et mériterait.
CVC, ils ont appris qu'ils versaient la moitié du salaire de Vincent Labrune sur la rémunération de 1,2 million
d'euros. C'est vraiment que par rapport à ça.
Les présidents sont les patrons, par délégation sont les patrons. On leur demande de diriger le football français par le biais de la LFP. Ils doivent être vigilants lorsqu'effectivement ils ont
une réunion.
Voilà. Et je trouve que tout ça est un peu léger. Ça manque de professionnalisme.
Pour terminer sur ce dossier, je voudrais vous faire écouter quelque chose. C'est un petit peu long, on l'a raccourci, mais c'est une séquence assez étonnante parce qu'on parlait du problème du salaire, de la prime, mais également, et vous l'avez évoqué, du parachute en cas de départ. Écoutez cet échange à un moment donné dans cette édition entre Vincent Labrune et donc Michel Savin, le rapporteur de la commission.
Si vous décidiez de ne pas vous représenter au mois de septembre, donc une indemnité forfaitaire brute s'élèverait à 24 mois de rémunération, bonus compris. Est-ce que cette délibération a été revue au vu de l'augmentation de
du salaire, parce qu'aujourd'hui, elle représente, si vous décidiez de ne pas vous représenter, un bonus de 5 millions.
Bon, ça, c'est la surprise. Merci de votre question, je vais vous répondre. Effectivement,
mais
il y a.
Moi, ça me fait pas rire.
Non, mais moi, ça me fait pas rire non plus, parce qu'il y a une délibération qu'on fait à un instant T, en 2022.
Qui est toujours d'actualité.
Sur des montants précis qui ont été.
Non, il n'y a pas de montant.
Non, mais attendez, autant je considère qu'on a fait une opération exceptionnelle au sens littéral du terme en levant 1,5 milliard d'euros auprès de CVC. Et je trouve pas anormal que les présidents de club aient voulu me gratifier d'un montant de rémunération et global exceptionnel pour la réussite de cette opération. Donc pour vous répondre franchement, si cette disposition existe encore, de toute façon, on va la remettre, on la remettra sur la table.
Voilà, on va remettre le parachute sur la table.
Non, juste autre info, c'est que Arnaud Rouget, qui est directeur général de la LFP, lui aussi a pris un bonus d'1 million d'euros. Enfin voilà, donc c'est aussi un chiffre important. Ce qui me gêne, moi, c'est que Vincent Labrune nous dit dans cette même audition, il dit c'est justifié compte tenu de ce que l'on a fait depuis plusieurs années. Et justement, si on regarde le bilan de la LFP ces dernières années, je pense que non. Alors non, ça n'est pas justifié. On parle seulement que de droit TV, mais il y a d'autres soucis. La sécurité dans les stades n'a jamais été aussi grande. Il y a d'autres soucis aujourd'hui dans le football que la Ligue n'a pas réglé ou a mal réglé. Donc cette rémunération, non, n'est pas justifiée.
Ok, je reprends la main les copains parce qu'on est un peu pris par le temps. 10h46, on revient dans quelques instants. On s'en fout pas. Beaucoup d'informations à vous donner et quelques-unes savoureuses, comme d'habitude. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h50, les grandes gueules du sport, toujours avec Ludovic Duchesne ce matin, Cyril Linette, Pascal Duprat, Fred Weiss. À partir de 11h, nous serons en direct de Florence pour le grand départ du Tour de France. Le suspense est-il déjà mort? Les GG ne sont pas d'accord, mais tout de suite, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Alors, des informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. Je rappelle la règle pour Ludo. Si tu me dis je m'en fous, tu n'as pas le droit évidemment à la parole, même si une des GG dit une énorme saucisse.
Ça, je m'en rappelais. Ça fait longtemps que je suis pas venu, mais quand même.
Première information dans le zapping des GG à vous donner, c'est la Russie qui a décidé de ne pas envoyer de judoka à Paris pour les JO. On s'en fout pas, Fred Weiss.
On s'en fout pas.
Pascal Duprat.
Je m'en fous.
Cyril Linette.
On s'en fout pas.
Non, je m'en fous pas.
Ludovic Duchesne, ok. Face aux conditions fixées par le CIO et qu'elle juge humiliantes, la Fédé russe de judo a donc tranché hier. Elle n'enverra pas, je le disais, ses judokas russes aux Jeux Olympiques de Paris. Les Russes avaient pourtant qualifié 12 combattants directement pour les Jeux Olympiques et le comité international leur avait imposé de n'en prendre que 4 maximum. Voici ce que dit la Fédé russe face à cette situation. Notre Fédé a pris une décision radicale et n'acceptera pas de telles conditions humiliante, Fred Weiss.
C'est dur. Honnêtement, c'est hyper difficile comme posture parce que t'as des athlètes qui sont qualifiés, qui ont le droit d'y aller, qui n'iront pas. Je trouve que je sais pas si c'est politiquement correct ce que je vais dire, mais je trouve que ça bien finalement que les Russes n'y aillent pas parce que c'est un bloc. On y va à 12 ou on n'y va pas et ils n'y vont pas. Ils assument leur choix. C'est dommage pour ceux qui avaient gagné le droit d'y aller.
Et pourquoi uniquement sur le judo et pourquoi pas une position plus globale? Est-ce qu'ils n'auraient pas été plus forts?
Ça, je suis complètement d'accord. Ouais. Mais au moins, ils ont une fédé de judo qui est plutôt cohérente dans ses choix. Ouais. Et voilà,
après, c'est ce que j'allais dire.
Il faut rappeler qu'ils n'ont pas le choix. Le CIO a invité, par exemple, 22 Russes et 17 Biélorusses dans tous les sports des Jeux Olympiques. Donc après, il faut rappeler que les athlètes doivent avoir fait preuve de neutralité pour être invités. Donc c'est assez compliqué comme principe. Et c'est vrai qu'ils sont pris entre la responsabilité de leur pays dans cette guerre et leur sport eux-mêmes. Des fois, ils n'ont rien à voir avec tout ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est très compliqué pour eux de gérer ça. Je pense aux tennisman Medvedev, Rublev, qui n'ont toujours pas donné leur accord ou pas pour participer à ces Jeux Olympiques. Donc c'est extrêmement compliqué d'être pris dans cette guerre alors que eux, le plus souvent, de toute façon, ils sont sur le circuit toute l'année, n'ont absolument rien à voir avec tout ça. Et pour eux, j'ai quand même envie de compatir parce que
je trouve que cette cohérence de la fédération de judo si on n'y va pas tous, on n'y va pas. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Ouais. Voilà,
ok, allez, on va passer à autre chose. Quoi. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, il n'y aura très certainement aucun Français sur 100 mètres au JO de Paris. Là, c'est pas de notre faute, hein. On décide pas de ne pas envoyer de. Mais là, ils sont pas qualifiés pour l'instant. On s'en fout pas, Fred Weiss.
Je m'en fous.
Tu t'en fous. Pascal Duprat.
Non, je m'en fous pas.
Ok. Cyril Linette.
Je m'en fous.
Ok.
Non, je m'en fous pas.
Alors, ce serait une première depuis 1932. Aucun Français ne devrait participer à l'épreuve reine des Jeux Olympiques cet été à Paris. Hier soir à Angers, on y sera d'ailleurs demain, délocalisation de cette émission pour les championnats de France d'athlétisme. Donc, avait lieu le 100 mètres de ces championnats de France. Dernière chance pour les sprinteurs de réaliser les minima fixés à 10 secondes tout pile. Et notamment le champion de France, le nouveau champion de France, Pablo Mateo, n'a pu faire mieux qu'un chrono à 10,08. Et sauf miracle, il ne pourra pas prétendre à disputer les Jeux Olympiques. Alors pourquoi ? Déjà, sa position au classement sur Road to Paris 2024, eh bien le Français est sélectionnable. Il est 56e sur 56, donc il est qualifiable. Sauf que la Fédé française a décidé, pour garantir un niveau de performance élevé, d'ajouter des critères, et notamment de celui de figurer parmi les 24 meilleurs sprinteurs mondiaux. Il est donc 56e aujourd'hui. Il faudrait un concours de circonstances assez improbable pour qu'il se qualifie, parce que la date butoir, c'est le 30 juin. Son classement peut uniquement progresser, parce qu'il va pas courir de nouveau, il peut uniquement progresser s'il y a d'autres concurrents un peu partout dans le monde, se cassent un peu la figure et baissent au classement. Sinon, c'est mort.
Non, moi, je trouve ça dommage. Comment ils peuvent faire pour baisser au classement? Il y a juste le forfait, parce que les temps, ils les ont déjà réalisés, les autres.
Oui, mais il faut des mauvais temps, parce que j'imagine qu'en tout cas, il y en a d'autres. D'accord. Qui vont essayer de se qualifier directement en passant cette barre des 10 secondes. Et s'il y a des mauvais temps, ils reculent au classement. Mais bon, non, ça paraît hautement improbable.
Ce qui est dommage pour eux, c'est que Pablo Mateo, Jeff Herius ou encore Dylan Vermont, les trois Français qui ont terminé les trois premières places, ont à chaque fois battu le record personnel. Et Pablo Mateo, c'est un grand espoir du 100 mètres français. Il a battu son record, il est à 10,08. Et je trouve qu'aller au JO, c'est une expérience pour lui qui lui aurait sans doute servi. Donc je trouve que c'était une bonne expérience. Peut-être qu'il aurait été en quart, en série, en demi-finale. Et ça aurait été de toute façon bénéfique pour lui. Donc je trouve dommage pour ces jeunes sprinteurs, ils sont très jeunes tous, de ne pas les avoir emmenés.
Oui, et on faisait ce débat sur la natation qui impose des critères de performance assez élevés pour justement bien figurer au JO. C'est un peu pareil en athlétisme sur 100 mètres. Et finalement, ça les prive de compétition, Pascal.
Oui, ça veut pour ma part, ça veut dire que les minima sont trop ambitieux, parce que de pas avoir de sprinteur français sur l'épreuve reine de la discipline reine par excellence des Jeux Olympiques, franchement, c'est fort dommage. Pendant les Jeux Olympiques qui se déroulent en France, franchement, c'est dommageable de pas avoir de français inscrits. Donc les minima, pour ma part, ils sont trop élevés, tout simplement.
A priori, Pascal, ils font quand même le 4x100, mais c'est vrai que ça aurait été bien qu'ils courent individuellement.
Ah, c'est dommage, Cyril avait quelque chose à dire, mais il m'a dit je m'en fous, non, donc évidemment, il n'a pas le droit à la parole. Non, c'est la règle de ce jeu, évidemment, qui est cruelle. Sachez, et demain, évidemment, tu pourras nous appeler, car on sera en direct d'Angers, Cyril. Si tu veux poser la question à Romain Barras, le directeur de la haute performance de l'athlète, qui sera avec nous dès 9h30 en direct d'Angers pour ces championnats de France d'athlétisme. Il y aura également Mélina Robert-Michon, Teddy Tango, qui seront nos invités. Bref, on parlera d'athlète, puis également du Tour de France.
Tu pourras poser la question pour l'Euro.
Ben exactement, je poserai la question pour Cyril. Quel dommage, Cyril. Il fulmine et tout ça. Je suis désolé. On a coupé son micro en plus. 10h56, on se retrouve dans quelques instants. Le Tour de France. Est-ce que le suspense est déjà mort? On sera en direct de Florence. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi.
Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein?
Les grandes gueules du sport.
Tous les chemins mènent à Rome, dit le vieil adage français. Non? Tous les chemins mènent à Paris.
Jean-Christophe Drouet.
Eh oui, le grand début du Tour de France, c'est aujourd'hui. Évidemment, c'est un moment magnifique que vous allez vivre durant 3 semaines sur RMC en intégralité. Midi 30, midi. 9h30 midi, c'est votre émission Les Grandes Gueules du Sport le samedi et dimanche. On va en parler dans quelques instants de ce Tour de France, toujours avec Pascal Dupraz, Cyril Linette, Ludovic Duchesne, Fred Weiss, Tadej Pogacar et le grandissime favori. Le suspense est-il déjà mort? Nous serons en direct de Florence, le lieu du départ du Tour de France 2024. 11h30, le débat caché, les GG ne savent rien. Et pourtant, elles vont devoir débattre sur un sujet avec leur conviction, avec leur cœur, avec leur émotion, comme toujours. Et puis 11h45, les GG contre-attaquent. Vous pouvez prendre les commandes de cette émission en proposant un débat. Vous avez 20 secondes pour le vendre maintenant et vous pouvez voter évidemment, chers auditeurs, sur le compte Twitter, le compte X des Grandes Gueules du Sport. 20 secondes, Fred Veil, c'est quoi ton débat?
Alors j'avais envie de parler de basket. Alors l'année dernière, on a eu Wembanyama, numéro 1 de la draft, on a eu Koulibaly dans le top 10. Cette année, on a eu Risaché, numéro 1 de la draft et deux autres joueurs dans le top 6. Est-ce que la France va écraser le basket mondial dans les années à venir? J'aimerais pouvoir en débattre avec mes collègues.
Ok, c'est la proposition de Fred Weiss. Convaincante. Ah, c'est à vous de le dire. Pascal Dupraz.
Ouais, c'est bien Fred, je reconnais, mais je pense que mon sujet est meilleur. Donc j'aimerais qu'on parle de Formule 1 et surtout de la prolongation de Gasly cette semaine chez Alpine. Et j'ai le sentiment qu'Ocon, depuis l'accident de Monaco, a été sacrifié. Trouvez-vous ça injuste ou logique ?
Injuste ou logique, allez voter.
Pascal,
si vous...
c'était nul, hein, vraiment.
Si vous choisissez. Hey, moi, je t'encourage, toi, tu me descends. Ah, franchement.
Non, moi, je suis honnête.
Pas d'esprit d'équipe. Ouais. Ok, Cyril Linette, ta proposition.
Bah, tout le monde le dit, le road foot est d'un ennui profond, mais absolument profond, je pense, à part la Géorgie. Alors, ça va peut-être s'améliorer à partir des huitièmes de finale, mais moi, j'en suis pas sûr. Tous les joueurs sont rincés. Le football de sélection devient de plus en plus ennuyeux. Et j'ai envie de poser la question, à qui la faute? Ça va pour moi de l'avocat de Jean-Marc Bosman, on en parlera pour les plus jeunes il y a 30 ans, à Pep Guardiola.
Ok, qui a tué le foot de sélection? Voilà. C'est la question posée par Cyril Linette, vous pouvez aller voter pour lui, Ludovic Duchesne.
Moi je vais être 100% d'actualité, Didier Deschamps a-t-il définitivement perdu la main? Un jeu insignifiant, pas d'équipe type, des remplaçants qui limite n'ont pas envie de jouer, c'était le cas contre la Pologne, un discours de plus en plus musclé, voire blessant, vexant envers ses joueurs, et on l'a senti dépassé sur les prises de parole politiques de ses joueurs avant le match contre les Pays-Bas. A-t-il vraiment passé son temps? J'en suis pas sûr, c'est pour ça que je compte sur vous, on a besoin d'en débattre.
Ok, il veut parler de Didier Deschamps, de l'équipe de France. Peut-être un choix payant de vouloir parler, évidemment, de ce qui nous concerne en premier plan.
C'est les
de
quatre notre débats sont bien, est-ce qu'on peut rester jusqu'à 13h?
On peut rester jusqu'à... Alors, il y a les paris RMC et on a un gros contrat. Ah, je crois que ça va être compliqué. Mais j'aimerais bien, forcément. Vous savez quoi? Il y a celui qui a remporté le plus de GG contre-attaque dans l'histoire des GG contre-attaque. C'est Christophe Cessieux, il est avec nous en direct de Florence. Salut Christophe.
Oui, il fait les grandes gueules. Comment depuis 1912.
Je suis le Maurice Garin des grandes gueules.
Il a vu le premier France-Belgique. Le premier France-Belgique de foot en 1904.
Alors, Cyril, tu vois, je voulais être sympa. Je voulais appeler ma team à voter pour ta contre-attaque. Ah, ben, finalement, je vais voter Duprat. Hein, voilà.
Ah, merci, Christophe.
Christophe, moi, j'ai rien dit. Moi, je t'encourage tout le temps.
Pas tout le temps.
Parce qu'il sait que Pascal a aucune chance.
Bon, en tout cas, Christophe vote Pascal Duprat. Voilà, vous le savez, mais il a failli voter pour Cyril Linette. Mais bon, il est un peu rancunier. Christophe, tu restes avec nous, on est très heureux de t'avoir dans cette émission comme tous les week-ends, et puis là tu es en direct de Florence car tu vas nous faire vivre comme d'habitude, tu es la voix du Tour de France sur RMC avec déjà l'hélico qui est en place, merci beaucoup la régie pour ce son. Tu vas être avec nous pour ce débat dans quelques instants, que l'on va débuter avec cette citation de Jean-Pierre Jeunet qui a dit un jour, la chance c'est comme le Tour de France, on l'attend longtemps et ça passe vite.
RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
Vingegaard qui s'envole et désormais dans la montée, est-ce que Pogacar va pouvoir réagir? Non, il ne réagit pas, attendez Pogacar, il laisse Vingegaard s'envoler.
Incroyable, Vingegaard qui est en train de mettre un premier coup, jamais on aurait imaginé ça. Pogacar aujourd'hui est peut-être encore en train de prendre le maillot jaune, il passe la ligne top, c'est
accélération
parti.
Pogacar qui accélère, Vingegaard qui se dresse sur les pédales,
ça, c'est parti pour Vingegaard. Pogacar dans la roue qui va être un petit peu court, Vingegaard qui avait démarré, Pogacar qui place un compte pour aller partir dans la descente en premier.
Pendant plus de deux semaines, les deux hommes ne se sont pas lâchés d'une semelle. Et là, à quelques jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées, Vingegaard est en train de frapper du poing sur la table. Il montre qu'il est le patron, qu'il est l'homme en jaune, qu'il est l'homme qui va remporter sans doute dimanche prochain un deuxième Tour de France d'affilée.
C'est donc le grand départ du Tour de France aujourd'hui, départ de Florence, et donc le retour de la saga, vous l'avez bien compris, Pogacar, Vingegaard, deux victoires pour le Slovène, deux victoires pour le Danois, mais un duel déséquilibré. Cette année, le double tenant du titre est dans l'inconnu total après sa lourde chute lors du Tour du Pays Basque. Pogacar, lui, a écrasé le Giro et veut absolument devenir le huitième coureur de l'histoire à réaliser le doublé Tour d'Italie, Tour de France. Depuis quelques jours, une petite musique est en train de monter dans le peloton à l'image de cette sortie de Remco Evenepoel, l'un des outsiders. Pogacar est quasiment inaccessible. La musique qui fout les jetons et cette question. Le suspense est-il déjà mort? Mais GG. Oui ou non, Ludovic Duchesne?
Oh que non.
Fred Weiss?
Oui.
Vous êtes d'accord parfois, vous tous les deux, ou pas?
Non. Non.
Rarement. Hein. Cyril Linette?
J'en sais rien, mais j'ai envie de dire que non.
Ok, plutôt non. Pascal Duprat?
J'espère que non.
Christophe Cessieux?
Bien sûr que non.
Il nous vend évidemment ces trois semaines. Lui, l'envoyé spécial, lui, la voix du Tour de France. Tu as bien raison, mon cher Christophe. Vous allez entendre les GG dans quelques instants, mais tout d'abord, une première pièce à conviction. Jonas Vingegaard, lui-même, au micro de nos reporters, hier. Comment il se sent, justement? Est-ce qu'il peut gagner ce Tour de France? Réponse.
Pour être honnête, je ne sais pas. J'ai beaucoup travaillé et je ne suis pas en mauvais état. Ça a été un tel accident que oui, d'une certaine manière, tout ce qui se passe à partir d'ici est un bonus. Mais bien sûr que j'espère que ça arrivera et nous verrons.
Voilà, il est déjà content d'être là, notre ami Jonas Vingegaard. Ludo Duchesne, pourquoi non ?
Bah parce que c'est l'essor du vélo et que vous pouvez chuter ou être victime du Covid. Ça a été le cas de beaucoup de coureurs ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, avec David Gaudu qui n'a pas pu courir le Tour de France. Donc déjà, par définition, non. Et parce que Vingegaard est là, est-ce que c'est vrai que ces deux-là dominent, ultra dominent le Tour et le vélo ces dernières années, et que psychologiquement, je pense que le Danois a pris un avantage, je dirais pas rédhibitoire, parce que Pogacar est un champion, mais un gros avantage, 7 minutes 29 l'an passé. Je pense que le contre-la-montre de Combloux, Pogacar ne l'a toujours pas digéré. D'ailleurs, il a avoué récemment qu'il avait craqué mentalement, ce qui redonne encore un peu plus de valeur à la victoire de Vingegaard. Donc non, moi j'attends énormément du Danois. Il est là, il n'aurait pas été là, je pense que j'aurais répondu qu'il n'y avait pas de suspense, mais il est là et je pense que tout est possible.
Alors moi je pense que tout n'est pas possible, parce qu'on n'est jamais d'accord, donc c'est assez logique, normal. Parce que Pogacar, il a mûri, il a grandi, on l'a vu sur le Tour d'Italie, il est monstrueux, c'est un carnivore, il veut tout gagner, il est accompagné d'une équipe incroyable qui va l'accompagner jusqu'au bout, alors que Vingegaard, il y a deux inconnus. La première, son état de forme, il n'a pas couru depuis longtemps, évidemment. Alors effectivement, c'est un très grand coureur, et on sait qu'il aura bien travaillé, qu'il sera quasiment prêt. Sauf que on a la certitude là déjà. Ensuite, il va courir sans Sepkus, déjà, et sans Roglic. Donc, deux personnes qui l'ont accompagné, qui l'ont aidé, qui ont fait aussi que Pogacar s'est épuisé à essayer de courir avec lui. Donc, il part avec une équipe moins forte, avec des conditions pour lui qui sont bien plus difficiles et un état de forme qu'on ne connaît pas. Bah, pour moi, Pogacar, il est gagnant.
Ça fait trop et c'est rédhibitoire. Christophe Cessieux en direct de Florence, pourquoi tu y crois au suspense ?
Bah, pourquoi j'y crois ? Parce que quand tu regardes le cas de Pogacar, tu te rends compte que lui aussi a quelques petits défauts dans sa cuirasse, à savoir faire le doublé, ce doublé Giro Tour de France. Le dernier qu'il a réalisé, c'était Pantani, il y a 26 ans. Il y a 7 mecs dans l'histoire seulement qui l'ont réalisé. Et il y a un papier très intéressant dans l'équipe ce matin qui explique justement la fatigue mentale après 3 semaines passées sur le Giro. Alors évidemment, il a survolé les débats, mais le plateau était vraiment pas du tout à la hauteur de celui du Tour de France, et on peut pas se baser sur ce qui s'est passé sur le Giro pour définir ce qui va se passer sur le Tour de France. Je pense que Pogacar peut connaître un jour sans, et je pense que Vingegaard va petit à petit monter en puissance. Pogacar a un intérêt, son intérêt principal, c'est d'essayer de faire péter Vingegaard dès le début et dès ce premier week-end. Mais moi, quand tu regardes franchement le plateau, j'ai jamais vu un aussi beau plateau dans l'histoire du Tour de France. Donc tu ne peux pas dire il y a pas de suspense. C'est pas possible. T'as Roglic, t'as Evenepoel, t'as Vingegaard, t'as Pogacar, t'as Yates. En fait, il y a 13 des 15 derniers vainqueurs des grands tours qui sont présents au départ de ce Tour de France. C'est le plus beau plateau jamais conçu par les dirigeants de d'ASO et par les dirigeants d'équipes cyclistes. Donc, franchement, se dire à 3 semaines avant l'arrivée sur les tours qu'il n'y a pas de suspense, Fred, si on t'avait dit qu'il n'y avait pas de suspense lors de la finale entre la France et les États-Unis en 2000, ça t'aurait pas fait râler, ça?
C'était vrai pourtant, hein. Mais vous finissez à 10 points,
Fred. Il y a eu du suspense, mais moi je te dis que Pogacar va sans doute gagner.
Donc on est d'accord. Tu vois, moi j'écoute le seul vrai spécialiste de cyclisme dans cette émission. C'est Marc Madiot. Marc Madiot, il a dit, il peut gagner le tour sur les 4 premiers tours.
Marc Madiot nous avait dit que Lenny Martinez, il ferait pas le tour.
C'est que Thibaut Pinot ne le ferait pas non plus l'année dernière.
Franchement, Marc, on va revoir son contrat.
C'est le plus grand bluffeur de l'histoire, Marc Madiot. Et il a même bluffé Fred Weiss tellement il est bluffé. C'est le plus grand bluffeur de l'histoire, Marc.
Cyril Linette, le suspense. T'arrives à être convaincu par Christophe, par
Fred? Ouais, complètement. Moi, je trouve que, moi, ce que j'adore dans le sport, ce que je déteste dans le sport, c'est quand il y a un favori qui se détache et dont on sait qu'il va nous ennuyer et gagner pendant 3 semaines. Pour moi, l'archétype, Miguel Indurain, il va gagner 2 contre la montre, point barre.
Il était chiant, bien.
horrible, horrible. Ou alors quand il y a aucune hiérarchie et qu'on ne sait absolument pas vers qui se tourner pour commencer à comprendre. Là, on a tout compris. On a deux héros, on a le meilleur coureur du monde, on a le meilleur coureur du Tour de France, en gros, pour schématiser. On en a un qui vient de gagner le Giro et qui peut avoir un coup de fatigue dans la troisième semaine. On en a un qui revient. Il y a beaucoup d'inconnus, mais on sait que il peut peut-être finir fort. Il y a quatre jours où effectivement Pogacar peut faire la différence. Il y a aussi quand même un tracé du Tour de France particulièrement original, puisque ça démarre très fort tout de suite, qu'on démarre par la montagne, qu'on finit par un contre-la-montre à Nice, et donc quelque chose de très ingénieux, de très nouveau compte tenu des Jeux Olympiques. Ça fait quand même vraiment envie, et ça donne vraiment beaucoup, beaucoup d'intérêt à ce Tour de France. Un décor planté, bravo, un parcours original, voilà, c'est très très plaisant à suivre a priori.
Okay. Oui, mais c'est plaisant à suivre, ça n'a aucun rapport. On sait que Pogacar va gagner. Ça
mais justement, nous on a envie de prendre du plaisir à regarder le Tour de France.
J'ai écouté Christophe Cessieux qui disait Vingegaard va prendre son temps, monter en température. Sauf que s'il monte en température trop lentement, ouais, sera fini déjà.
Il a quatre jours.
Moi, quand j'écoute les spécialistes vélo, ils sont en train de me dire concrètement qu'on a un mec qui est affûté comme jamais, qui veut rentrer dans l'histoire, qui veut faire le doublé qui ne s'est pas fait depuis 26 ans. Et de l'autre côté, on a un mec qui est dans le doute, qui est moins bien accompagné et qui doit commencer fort alors qu'il va pas être capable de le faire.
Ça veut dire qu'il y a l'incertitude.
Et si Pogacar est en tête au bout de 4 jours, est-ce qu'il va se tenir tranquille sur les 2 semaines et demie restantes? C'est pas dans son
genre. Il va créer encore plus de différence. D'accord avec toi, Cyril, il va créer encore plus de différence.
Ok, Pascal.
En fait, moi j'ai répondu non, tout comme pour Toulouse et comment dire l'UBB, c'est-à-dire que j'ai envie de vibrer pendant 3 semaines, j'ai envie de monter dans ma bagnole, me précipiter pour écouter Christophe avec ses envolées lyriques. Donc j'ai pas envie de me faire chier.
Je me dis
que le double vainqueur du Tour de France, les deux dernières éditions, quel est son état de forme? Et je me dis que ces deux dernières éditions, tout le monde disait que Pogacar allait gagner, et malheureusement pour Pogacar, il a perdu. Donc j'espère que il va y avoir du suspense, d'autant comme l'a très bien souligné Cyril, la fin du Tour de France avec les 3-4 dernières étapes, j'ai vraiment envie que le suspense soit à son comble à ce moment-là.
Et on termine par un contre-la-montre, hein.
Et puis alors, contre la montre, tu penses que Vingegaard il est encore.
Non, il est
justement. Ah bon. Vingegaard l'année dernière. Non mais le problème c'est que Fred il stigmatise toute ma rancune parce que
Fred.
Non mais Fred c'est un pisse froid, voilà, donc voilà, c'est tout, je le dis. En plus je suis pas là, donc je peux le dire.
En gros, on n'a pas envie de vivre la finale de Top 14 qu'on a vue hier, voilà. Sur ce Tour de France.
Ah oui,
on n'a pas envie qu'au bout de 4 jours ce soit plié.
Pourtant Fred il a adoré c'est la finale d'hier soir.
C'est vrai qu'il nous a écouté. Mauro Gianetti, le patron du AE, le patron de Pogacar, nous venons de le rencontré il y a quelques instants et on l'a interrogé évidemment sur son coureur grandissime favori, Mauro Gianetti.
C'est un big challenge comme on dit, on a mis ça comme objectif pour la saison. On sait que c'est quand même difficile, c'est compliqué, mais côté de l'équipe on a vraiment bien travaillé, ils se sont bien, tous les coéquipiers aussi. Maintenant c'est du sport, maintenant on va mettre toute notre qualité sur la route et on va voir ce que ça donne, mais c'est bien de commencer le tour avec un bon esprit. Ça sera un grand tour parce qu'il y a des adversaires incroyables, peut-être un des tours les plus combattus des dernières années, et donc ça va être, je me réjouis de commencer ce tour.
Et voilà, Mauro Gianetti qui a dû rencontrer Christophe Cessieux parce qu'ils ont les mêmes arguments à peu près. Christophe, justement, toi le spécialiste, ça peut vraiment être plié au bout de 4 jours? C'est une vraie possibilité?
Oui, il y a toujours cette possibilité, mais enfin, moi j'y crois pas une seconde. J'y crois pas une seconde parce que je pense qu'il y aura pas d'énormes écarts dès les deux premières étapes. Faut dire qu'il fait très chaud aujourd'hui en Italie. On annonce des températures qui vont jusqu'à 36 degrés. Pogacar n'aime pas la chaleur. Donc est-ce qu'il va quand même tenter de faire exploser Vingegaard dès les deux premières étapes? J'en suis pas si sûr que ça. Je pensais que ce serait le cas il y a 2 jours, mais là vu les températures, je pense qu'il va peut-être en garder sous la pédale. On rappelle aussi, il y a un autre bémol à apporter à Pogacar, il l'avouait avant-hier en conférence de presse, il a été atteint par le Covid il y a 10 jours, il a été complètement à plat pendant 2 jours et il a repris l'entraînement. Est-ce que cela aura une influence? On ne sait jamais avec ce virus ce que ça peut avoir comme conséquence à plus ou moins long terme, donc il faudra surveiller ça. Et puis il y a aussi le cas de Vingegaard. Jérôme Pinault le disait il y a quelques semaines, on avait un peu rigolé à son propos, il disait ouais, mais est-ce que Vingegaard a été aussi touché qu'il le disait. Moi, il était à 2 mètres de moi avant-hier en conférence de presse, je l'ai vu. franchement, il a l'air plutôt pas mal. Il est affûté comme jamais. Alors, si évidemment, il a eu les blessures qui ont été annoncées par son équipe, ça sera très difficile de tenir les trois semaines.
Mais s'il y a un peu d'intox,
est-ce qu'il y a pas un peu de bluff en plus. Est-ce qu'il y a pas un peu d'intox? Je sais pas.
Il arrive
exactement,
en
il n'a pas la pression.
C'est parfait
en
pour
plus.
Lui cette année,
en
c'est
plus.
Parfait.
Exactement.
Et je trouve que Pogacar se perd un peu dans ses déclarations quand il dit qu'il est encore plus fort que Giroud.
Ouais.
Quand il, je trouve qu'il est pas très inspiré. Il s'est comparé là dans l'interview qu'il donne à l'équipe à un diamant. Il dit qu'il est fabriqué sous pression. Je trouve qu'il en rajoute.
Donc à assumer.
C'est la guerre psychologique en ce moment.
Ouais, je trouve qu'il en rajoute.
C'est mauvais pour toi.
Ce qui me fait
c'est
dire.
C'est pour ça que j'aime pas le sport, Ludo. Moi, j'aime les gens qui assument.
C'est ma vie, tu rigoles.
D'être des grands champions, un grand champion, il le dit, il va gagner, c'est tout.
Non, mais je pense qu'il craint vraiment Vingegaard. Il a raison. Il a raison. Bah Kevin nous appelle au 32-16. Il veut aider Fred Veil sur ce débat qui est un peu tout seul. Salut Kevin.
Ouais.
Salut les grandes gueules, salut Fred.
Salut
bon,
Kevin.
J'aide encore plus Fred parce que je vote pour lui pour les GG contre-attaque.
Merci beaucoup. Bon,
tu seras le seul, hein. Tu vas être le seul quand même.
Sur la draft, c'est bien. Au moins,
il va t'ennuyer pendant 2 minutes.
Et je pense que l'année prochaine, il faut mettre en place aussi la rubrique les auditeurs contre-attaque parce que moi, j'aurais mis le sujet Jérôme Cahuzac ou Marc Madiot, qui est le meilleur joueur de pipeau.
C'est une proposition, merci en tout cas. Le suspense est-il déjà mort, Kevin?
Oui, clairement. Moi, je pense qu'il n'y a pas de match parce que pour moi, Pogacar, il est sur un nuage cette année. Je pense que le Giro, il n'a pas eu à s'employer. Donc, je pense que par rapport aux historiques des doublés de Giro Tour de France, on ne peut pas comparer parce qu'il a pu être dans la gestion sur toute la deuxième partie du Giro. Donc, finalement, il va arriver, à mon avis, frais. Les blessures de Vingegaard, moi je crois pas du tout au bluff et je pense que le type de chute, et de toute façon elle a été vue à la télé, la gamelle qu'il a prise, on s'en remet pas comme ça en 2 mois. On a des exemples les derniers temps, les Egan Bernal, même Julian Alaphilippe ou Christopher Froome, c'est le genre de gamelle dont tu te remets pas si facilement. Ensuite, qui va être il y a Roglic qui peut éventuellement aller titiller un peu, mais pour moi on est clairement un ton en dessous et c'est pas le Roglic non plus de son prime, même s'il a une équipe quand même solide. Et je pense qu'on aura une réponse pour moi. Je suis pas d'accord avec Christophe. On aura une réponse dès demain, en fait. Parce que il y a un parcours avec notamment les côtes juste avant qu'on va monter 2 fois. J'ai plus le nom. Mais qui, juste avant, voilà, Sanluca, juste avant Bologne, qui correspond clairement, aux qualités de Pogacar et pas de Vingegaard. Donc je pense que Pogacar, il va allumer là-dedans. Et là, on va savoir tout de suite, si Visma Liseback, joue, clairement pour Vingegaard ou si on joue la deuxième carte qui est Matteo Jurgensen, le vainqueur de Paris-Nice. Parce que Vingegaard, pour moi, il va sauter dans cette côte-là. Et on va voir si la consigne est donnée à Jurgensen d'attendre Vingegaard ou de suivre Pogacar s'il en est capable. Et donc là, on aura clairement des réponses sur l'état physique réel de Vingegaard.
On se rappelle demain soir.
Et par contre, voilà, là où je veux pas casser non plus le boulot de Christophe Cessieux, ce qui est génial avec le Tour de France, c'est que même si pour le maillot jaune, il y a pas de suspense, on aura toujours des histoires dans ce Tour de France parce que chaque étape est une course en tant que telle, parce qu'il y a les classements annexes avec le maillot à poids, le maillot vert, où il y a toujours des histoires à raconter. On compte sur les coureurs français aussi pour nous faire vivre des belles histoires, même si malheureusement il y en a pas un qui peut jouer le général.
Kevin est en train de vendre le produit de Christophe Cessieux et d'RMC. Bravo, merci.
C'est très bien.
Envoie ton CV pour remplacer Christophe.
Mais il m'avait dit qu'il voulait m'embaucher, mais il m'a pas rappelé. Donc j'attends toujours.
J'ai pas eu le budget. Jean-Christophe Drouet m'a pas filé le budget. Qu'est-ce que tu veux?
Il m'a fait la même chose. J'ai donc décidé de prendre le pouvoir directement. Christophe, il faut rappeler 14h, 18h tous les jours les étapes en intégralité. Ça commence dès aujourd'hui avec Florence Rimini. Donc c'est vraiment les étapes en intégralité avec toute la Dream Team.
En intégralité, et puis il y a la radio numérique, Ludo, il va vendre son produit lui aussi, la radio numérique que vous pouvez suivre, là ça commence encore plus tôt que chez nous, ça commence à midi, jusqu'à 14h, ensuite le direct, ensuite ils reprennent l'antenne, bref, de 14h à 20h, si vous aimez le vélo, vous allez être servi avec une Jérôme équipe Pilot. De folie.
Exactement, la radio digitale 100% route à partir de midi, là, donc dans 33 minutes, ça débute. Et puis après, il y a l'after course à partir de 18h jusqu'à 19h, évidemment, l'étape en intégralité sur RMC. Bref, on a de quoi se régaler.
Et si vous voulez avoir des avis tranchés, ça va plaire à Pascal, Jérôme Pinault, qui vraiment.
J'avais déjà remarqué.
Il faut faire attention avec Jérôme Pinault, il pense que la Terre est plate quand même.
C'est aussi pour ça qu'il est dans cette émission, dans les grandes gueules du sport. Parce que nous aussi, nous pensons. Non, pas du tout. Merci Christophe. On te retrouve dès 14h sur RMC pour la première étape, donc entre Florence et Rimini. Nous allons vivre ces trois semaines magnifiques sur RMC, ces trois semaines de Tour de France. Et on espère évidemment que Pogacar ne va pas tout plier d'ici 4 jours. Nous allons accueillir un grand gagnant. Comment s'appelle-t-il ? Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour.
Allez.
Bonjour.
Comment tu t'appelles, mon cher grand gagnant ?
Je m'appelle Maxence.
Maxence, merci d'être avec nous. Alors, tu as remporté. Ça y est, tu es le premier gagnant de cette émission. Deux places dans la caravane du Tour de France avec Tourtel Twist. Et tu peux choisir parmi quatre étapes. Est-ce que tu connais ces étapes ? Tu veux que je te les compte ?
Bah, je veux bien parce que non, je les connais pas.
Alors mercredi 10 juillet, c'est une arrivée à Saint-Amand-Montrond. Le vendredi 12 juillet, c'est une arrivée à Pau. Le mercredi 17 juillet, une arrivée à Super Dévoluy. Et le jeudi 18 juillet, une arrivée à Barcelonnette. Qu'est-ce qui t'intéresse ?
Elles m'intéressent toutes. On peut pas toutes les avoir ?
Alors tu peux pas. Alors c'est pas le jeu, malheureusement. Enfin pour moi, tu pourrais toutes les avoir, mais tu ne peux pas. Je te laisse réfléchir, mais comme ça là, au feeling, il y aurait quelle, ce serait quelle étape plutôt ?
Peut-être la première ou la dernière.
Okay. Je regarde. Attends, si c'est, je regarde si c'est une bonne étape. Je vais te conseiller aussi, parce qu'on est là tranquillement. Bah Super Dévoluy, c'est une arrivée en montagne. Ça peut être pas mal. Il faut faire. Hein, si vous l'avez jamais fait, franchement, une arrivée du Tour de France en montagne, c'est vraiment quelque chose à faire une fois dans sa vie. Voilà, si vous n'avez pas de Rolex. Merci beaucoup, Maxence, et bravo. Tu as été le premier gagnant sur RMC pour le Tour de France avec Tourtel Twist.
Merci. Jouez et gagnez sur RMC votre place pour une étape du Tour de France au cœur de la caravane Tourtel Twist. La bière sans alcool, 0,0%.
Allez, les grandes gueules du sport continuent. On met le vélo de côté car nous avons un débat caché à faire. Ça ne concerne donc pas le vélo, mais il y a beaucoup d'autres sports. Ça va vous plaire, j'en suis sûr. Vous avez forcément des choses à dire sur ce débat caché. Vous ne savez rien pour l'instant, mais dans deux minutes, vous saurez tout. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Avec Cyril Linette, Pascal Duprat, Ludovic Duchesne, Fred Weiss ce matin. Encore 25 minutes de bonheur, de plaisir. À partir de midi, les paris RMC. Dans 10 minutes, restez bien avec nous. Les GG contre-attaque. Les GG ont proposé chacune un débat. Et pour l'instant, Fred Weiss est en train d'écrabouiller la concurrence avec sa draft NBA et ses trois Français dans le top 6. À toi d'être convaincant et à toi de les convaincre aussi, évidemment, avec ton débat.
Oui. Je vais le faire.
Très bien. Je te sens convaincu.
Oui, je suis convaincu.
Là, on demande que ça. Hein. Ouais. Dominer le monde du basket, l'équipe de France.
En plus, je sais que Cyril, toi, tu es un passionné de basket, donc je vais réussir à t'entraîner avec moi.
Allez, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien et pourtant, elles vont devoir débattre sur l'émotion, tout de suite s'emparer d'un sujet et y répondre. Bien, ce serait mieux. Le guet-apens du jour. C'est ça.
C'est fini ! La Géorgie réalise un authentique exploit en se qualifiant pour les huitièmes de finale de l'Euro avec cette victoire 2-0 face à l'équipe du Portugal.
Ah, certains disent que l'Euro commence enfin aujourd'hui avec le début des huitièmes de finale. Suisse-Italie ou encore Allemagne-Danemark à suivre sur RMC après deux semaines de compétition. C'est vrai, seulement 8 équipes sont éliminées. La formule à 24 équipes instaurée à l'Euro 2016 divise. Mais elle permet, c'est vrai, à des plus petites nations, vous venez de l'entendre, d'évoluer à des sphères, des altitudes inédites. Pour elles, on pense à la Slovénie, à la Roumanie, à la Slovaquie et donc aussi à la Géorgie. La formule de l'Euro, est-ce qu'elle est vraiment cata, selon vous ? Oui ou non ? Cyril Linette ?
Oui, cata.
Ludovic Duchesne ?
Non.
Pas cata.
Non.
Pascal Duprat ?
Non.
Non ! Je m'attendais à plus de oui. Fred Weiss ?
Non.
Non plus.
Ah, Cyril.
Cyril, tu es seul, tu commences.
Je n'ai rien contre la Géorgie et les petites équipes, entre guillemets.
Et
surtout pas la Géorgie, d'ailleurs, qui pour moi a été la vraie attraction de ce premier tour. Mais passons à 32. C'est pas le problème d'être à 24. C'est le problème de la formule avec les meilleurs troisièmes. Les derniers matchs du premier tour ont été scandaleux, on peut le dire. C'était n'importe quoi, le Belgique-Ukraine. On a vu des matchs grotesques. Dans ce cas, passons à 32. Je suis pour, moi, l'élargissement. C'est pas un souci, mais faisons des groupes de 4 équipes avec 2 qualifiés pour qu'au moins le premier tour ait un enjeu à la Coupe du Monde. Mais ça va être fini. On va passer à 48 pays. Ce sera la même chose. On va se retrouver avec des équipes. Il sera impossible d'éliminer une grosse équipe au premier tour. Je rappelle que ce qui a fait le sel des dernières Coupes du Monde, c'est le fait que l'Italie, depuis 2006, se fasse taper tous les 4 ans au premier tour, que l'Allemagne se soit fait éliminer éliminer au premier tour, que l'Espagne se soit fait éliminer au premier tour. Ça ne pourra plus arriver. Donc évitons ces formules alambiquées où personne n'est éliminé. Mais je ne suis pas du tout contre l'élargissement aux petites équipes.
Entre okay, guillemets, mais pas la du formule tout. À 24. Mais,
trouvons un nombre qui corresponde au nombre de qualifiés oui, en 8e ou en 16e.
Voilà, c'est ni fait ni à faire. Ludovic voilà. Duchesne.
Non, alors, non. Je ne sais pas si c'est une question de chiffres ou quoi que ce soit, mais non, pour plusieurs raisons, puisque on a vu émerger des petites nations, et c'est ce qui a fait le sel de cet Euro. Quand on parle du dernier match, ben, je pense que non, justement, puisque
quand même.
La Géorgie a été battre le Portugal,
bien sûr.
Et c'était un super match. La Slovénie, dans son groupe voilà. avec l'Angleterre, a fait 3 matchs nuls et resté invaincu. L'Albanie a marqué un point. Les Albanais, avec leur population, ils ont mis une ambiance incroyable.
Ouais, pardon, est-ce qu'on regarde vraiment l'Euro pour ça, quoi?
Mais oui, quand Albanie-Croatie, voilà, c'est des matchs super intéressants. Et s'ils ont accroché ces grosses nations, ça veut bien dire qu'ils méritent d'être ici. Mais alors après, il faut les premiers, il faut les derniers. Je sais plus
quel c'est intéressant parce qu'on aime les petits poussés, parce qu'on aime qu'ils puissent se passer des choses. Parce que moi, en tous les cas, c'est comme ça que j'aime le sport.
On l'aime bien une fois, quoi.
Mais non, c'est intéressant.
Non, mais tu l'aimes pas suffisamment.
Sauf que l'évolution de dire que les grands ne pourront plus perdre. Et ne pourront plus être éliminés, bah, je trouve ça un petit peu dommage. Moi, j'aime bien cette possibilité que les grands puissent être éliminés. Que les petites équipes puissent perdre.
Donc, on dit la même chose.
Moi, j'aime le sport, on est d'accord.
Donc, on dit la même chose.
En fait.
Donc, c'est pas un problème d'élargissement, c'est un problème de grille à 24. Les Pays-Bas qui finissent 3e du groupe ont un meilleur tableau que la France. Ils ont fait un premier tour catastrophique. Je sais plus quelle équipe se qualifie avec 3 points, alors qu'il y a une équipe, c'est l'Ukraine, je crois, qui est éliminée avec 4 points. Ça n'a aucun sens. C'est le retour des qualifiés. Il n'y a plus aucun enjeu pour les grosses équipes, elles savent qu'elles vont
battre. Si tu mets 4 équipes, au bout de 2 matchs, c'est filmé. Donc, parce que ça voudra dire que tu mets une équipe probablement plus faible encore. Donc moi, j'ai plutôt tendance à dire que le foot européen regorge de nations qui rattrapent leur retard. Okay. Et des nations qui ont l'emblème de leur pays sur le cœur, qui ont envie de défendre leur nation
oui,
dès la première
minute. Oui, on en
parle
parce qu'ils sont troisième. Sinon, normalement, dans Jean-Christophe, un Euro classique, ils seraient éliminés.
Mais vous, en fait, les équipes qui ont été décevantes sur ce premier tour, ce sont les grandes nations.
Ah oui. Mais pourquoi okay. Mais est-ce que c'est pas la faute de la formule
Non,
je crois pas.
Le championnat d'Europe, le championnat d'Europe version 2024, je suis désolé de vous dire qu'il est de bon niveau, que les matchs sont de bonne facture. Donc arrêtez de dire c'est pas bon. Vous regardez pas les matchs, donc vous pouvez dire que c'est pas bon. Moi je les regarde tous. Et c'est très bon. La Géorgie beaucoup. C'est très bon. La Roumanie c'est très bon. Les amis suisses c'est très bon.
Réveillez-vous un petit peu,
il n'y a pas de claque, les gros ont été nuls globalement, ils sont tous qualifiés, justement vous dites la même chose que moi.
La Croatie c'est quand même éliminée.
Ce qu'on a vécu ces 20 dernières années en Coupe du Monde avec des éliminations, je le dis à nouveau, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, même de la France, même si c'est un
c'est
peu
ce qui rendait le premier tour sexy.
Ça n'arrivera plus, il n'y aura plus aucun danger pour les grosses équipes. C'est pas la question de ne pas valoriser le travail des petites équipes, au contraire, c'est de donner un minimum d'enjeux aux grosses équipes pour qu'elles se bougent au premier tour, ce qu'elles n'ont pas eu à faire.
Donc parce tu valides.
Je suis pas sûr que ce soit un avantage de finir deuxième plutôt que premier ou troisième. Voilà, tout ça, c'est une histoire de règles à calcul. On n'a même pas compris comment les 4 meilleurs troisièmes étaient attribués.
C'est le nombre de points, puis ensuite, c'est les confrontations.
Non, mais par exemple, c'est des formules alambiquées qui ne riment à rien. C'est pas une question d'élargissement.
T'as pris l'exemple de la Géorgie. Je pense que c'est un magnifique exemple. C'est un petit pays, il y a 3,7 millions d'habitants. C'est un sélectionneur français. T'as l'un des meilleurs joueurs au monde en ce moment qui va sans doute venir au Paris Saint-Germain. Alors je me lance parce qu'il y a Kvaratskhelia qui fait des choses merveilleuses sur un terrain de foot avec Mikotadze. On a découvert le gardien Mamardashvili qui a 23 ans, qui est aussi un vrai phénomène. Donc c'est vraiment intéressant. Là je reconnais le côté entraîneur de Pascal, mais c'est passionnant de voir ces équipes.
C'est passionnant quand il y avait un Euro, quand il y avait une Coupe du Monde et qu'il n'y avait pas forcément les meilleurs troisièmes, il y a toujours une équipe qui sort du chapeau. Je parle de la Corée du Sud en 2002, on était très contents de les voir. Ça, l'un n'empêche pas l'autre.
Absolument.
C'est
pas.
Juste que quand il y a quasiment aucun éliminé, les gros, ils nous offrent une bouillie.
Fais un championnat à 4 équipes. Tu prends les 4 meilleurs Européens l'année dessus.
Puis tu donnes le titre
comme ça.
Comme il y a 30 ans, mais c'était inintéressant.
Ça s'appelle la Ligue des Nations. Il faut être un minimum réaliste. C'était un peu le thème de mon débat. Je suis content d'entendre le thème de Fred. Il est beaucoup plus positif.
Pas fini.
régulièrement. Oui. Mais globalement, le football de sélection, enfin, quand on suit le foot toute l'année et qu'arrive la trêve internationale, on est tous à se dire, oh, alors, quel ennui, mais qu'est-ce qu'on va s'emmerder pendant deux semaines.
Je peux pas te laisser dire ça,
tout le monde se dit ça.
Je peux pas te laisser dire ça, Cyril.
Pascal, laisse-moi juste finir ma phrase. Pourquoi? Mais toi, parce que tu analyses techniquement les matchs, effectivement. Mais qu'est-ce que se disent les gens? Quel risque y a-t-il aujourd'hui pour une équipe dans un éliminatoire? Tout le monde va se qualifier. Donc, les instances, à force de multiplier les matchs, les compétitions, le nombre de qualifiés aux compétitions font qu'il n'y a plus d'enjeu pour les grandes équipes aux éliminatoires. Moi, j'ai connu un temps où il fallait, pour se qualifier à l'Euro, il fallait éliminer les Pays-Bas, l'Irlande et la Belgique, pour l'équipe de France. Aujourd'hui, tout le monde sait que la France va se qualifier et tous les grands pays. Et c'est le cas aussi au premier tour. Donc, à force de multiplier ce type de formule, on rend quand même, à part pour l'œil technique du technicien Pascal et pour un peu d'exotisme, on
tu sais qu'à un moment donné, pendant le match France-Pologne, c'est-à-dire le troisième match, tu sais qu'à un moment donné, la France pouvait être éliminée? À un moment donné, la France, parce que si le
On était déjà qualifié avant de jouer. On pouvait terminer troisième en revanche, qui nous aura arrangé parce qu'on se serait retrouvé de l'autre côté.
C'est trop de matchs.
C'est une certitude. Le calendrier qui en plus met de plus en plus de matchs sur une saison, ça c'est un vrai souci. Que les joueurs arrivent aussi en fin de saison, ils ont une préparation plus ou moins courte, mais ils viennent de faire une grande saison de championnat, donc ils sont un peu plus fatigués et c'est normal. Mais je trouve que, au contraire de Cyril, il n'y a rien de plus haut que le football de sélection. Il n'y a rien de plus fort que le football en sélection.
Plus au niveau
du jeu, déplace les pays. Mais si le Paris Saint-Germain gagne avec des champions, t'as tous les Parisiens qui vont être contents. Mais si on est champion d'Europe dans quelques jours,
si tu nivelles par le bas, je comprends pas, Cyril. Si tu nivelles par le bas, c'est un vrai problème.
Juste vous faire écouter quelque chose et après, Pascal, tu pourras conclure parce que tu voulais reprendre la main. Hier, conférence de presse de Will Steele, nouveau coach de Lens. Il a été intronisé. Lui le Belge, on lui a demandé si l'Euro c'était pas mal. Voici son avis.
J'ai regardé beaucoup de matchs. Après, on va pas se mentir, on s'emmerde un peu. C'est pas ouf l'Euro. Donc, non, j'espère que sur la phase à élimination directe, ça va s'emballer un peu.
Pascal.
Mais en fait, il dit ça parce qu'il ne regarde pas, parce qu'il prépare sa saison avec Lens. Il peut pas ne voir les matchs et puis en même temps préparer sa saison. Donc voilà, c'est tout de la com, c'est nul ça.
Les matchs
sont de bonne facture, quoi qu'on en dise. Et je voulais vous parler du calendrier, le calendrier qui est démentiel. Les effectifs des clubs aujourd'hui ont 35 joueurs. Si on les utilisait mieux tout au long de la saison, peut-être qu'on n'aurait pas des joueurs qui arrivaient soufflés au championnat d'Europe. C'est une question de gestion des effectifs. Voilà, au contraire. On nivelle par le haut parce qu'il y a de plus en plus de bons joueurs de football.
Et si l'UEFA et la FIFA élargissent les compétitions, c'est pas pour le bienfait des petites équipes, c'est pour des raisons électoralistes. Parce que ça permet
d'économiser.
Surtout. Ça, on verra. Parce qu'à un moment, les diffuseurs vont se dire, finalement, c'est pas trop regardé. Les audiences sont pas extraordinaires de l'euro. Dans tous les pays. Loin de là. C'est pour des raisons électoralistes.
Avoir le plus de voix.
Ça fait plus de voix.
OK. Allez, on reprend la main. Bon débat caché, les copains. Bravo. Voilà, c'est important de faire ce débat dans l'entre-deux-tours, j'ai envie de dire, cette circonstance en ce moment.
Ton parti pris, il est regrettable. Tu devrais être neutre.
À 9h30, j'ai pris Evelyne sur le pacto sur mon débat rugby. À 11h46, je prends Pascal Dubras. Donc, c'est pas facile. Allez, à tout de suite sur RMC, les GG contre-attaque. Fred Weiss, la draft NBA. C'est lui qui a gagné. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h49 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Ludovic Duchesne, Pascal Dupraz, Cyril Linette, Fred Weiss. À partir de midi, les paris RMC évidemment autour des huitièmes de finale de l'Euro avec Suisse-Italie ou encore Angleterre-Allemagne-Danemark, aujourd'hui, mais également le Tour de France. Qui va remporter le Tour, la Dream Team des paris à partir de midi. Mais tout de suite, c'est au GG de jouer.
RMC. Les GG contre-attaque.
Quatre propositions de débat de la part des GG. Vous avez pu voter depuis de nombreuses minutes, chers auditeurs, sur le compte X des grandes gueules du sport. Et c'est sans appel. La dernière place pour Cyril Linette, 15% pour le foot de sélection.
On vient de le faire, donc ça va.
Exactement. C'est dire que c'est intéressant.
Ouais, c'est
17% pour Gasly Ocon. La guerre continue. Bon, troisième, Pascal, c'est pas mal. Médaille de bronze.
Ouais, mais bon, de toute façon, c'est truqué, j'en ai mis.
24%, Deschamps a-t-il perdu la main?
Ouais, j'avais gagné le dernier, donc je suis un peu déçu, mais.
Oui.
Mais je suis impatient d'écouter Fred.
Demain, on parlera, on se demandera si Didier Deschamps joue sa place face à la Belgique.
Ouais, intéressant.
Ok, ce sera à partir de 10h. Mais c'est vrai que c'est Fred, avec la draft NBA, cette semaine, qui a gagné. Parce que cette semaine, oui, mercredi soir, il s'est passé ça, encore.
The Atlanta Hawks select Zachary Rizache from Lyon, France, and Francis JL Boron-Bresse.
Encore un Français numéro 1 de la draft. Tu voulais nous en parler, Fred Weiss, à toi de jouer.
Alors je voulais en parler parce que je suis en train de vivre une période incroyable. Le basket français est en train de vivre une période incroyable. L'année dernière, on a le premier choix de la draft qui n'était jamais arrivé. Ce qui arrive très peu fréquemment quand c'est pas un Américain. On a le numéro 7 de la draft et on se dit c'est une draft incroyable, ça ne pourra pas se reproduire. L'année suivante, on a le numéro 1 de la draft, on a le numéro 2 de la draft et on a le numéro 6 de la draft. Et c'est là que je me dis que on est en train de montrer que la France a une formation, on a des joueurs, a une capacité à créer cette envie chez les Américains qui n'existait pas, qui n'existe pas dans les autres pays, qui n'existe pas en général, et qui est en train de dominer la formation pour l'instant dans le monde entier. On a des joueurs qui sont choyés par des franchises américaines, ce qui n'existait pas. Moi, je viens de cette génération où être drafté en NBA, c'était déjà un miracle. Y jouer, c'était impossible. Et quand en plus on y jouait et qu'on était Tony Parker, c'était devenu notre dieu vivant. On avait tous une statue de Tony Parker chez soi. Et là, ce que Tony Parker a fait, on a l'impression qu'on peut le revivre avec tellement de joueurs. On a tellement de joueurs qui sont sur le point d'arriver en NBA, qui sont formés. L'année prochaine, on parle d'un Nolan Traoré drafté aussi dans le top 14, ce qu'on appelle le lottery pick.
Et pourquoi c'est, Fred, on a autant de réussite alors?
Ben justement, j'allais venir, on a cette formation. Faut arrêter de dévaloriser notre formation. Faut arrêter de dire que nous, les Français, on sait pas faire, que le basket, c'est pas notre truc, que c'est les Américains. Les Américains viennent de signer un partenariat avec la Ligue nationale de basket pour justement superviser, scouter et travailler avec les jeunes joueurs français. Il faut se rendre compte de ce qu'il en est. Le basket, c'est être numéro un de la draft en NBA. C'est quelque chose qui n'est pas comparable dans d'autres sports parce que c'est leur sport, c'est leur domaine privilégié. C'est un peu comme si on avait en NFL un numéro 1 de la draft. C'est quelque chose d'incroyable. Hier, je discutais avec Stéphane Rizache, donc le papa.
L'illustre papa. Vice-champion olympique comme toi en 2000.
Exactement, avec qui j'ai eu la chance de jouer à Malaga. On discutait un petit peu par message et à un moment, je lui ai envoyé un message vocal. Et donc, bien sûr, je l'ai félicité. Bien sûr, je lui ai dit que j'étais fier pour lui. Et je me suis mis à pleurer, en fait. Je me suis mis à pleurer parce que pour un mec comme moi, vivre les années basket qu'on est en train de vivre, c'est incroyable. Thierry Roland avait dit, maintenant on peut mourir tranquille. Je vous le dis aussi, les yeux dans les yeux.
Ouais, attends,
je peux mourir tranquille. Alors, le plus tardivement possible,
attends,
évidemment. Mais là, on a une équipe. On va bientôt avoir une équipe incroyable.
Voilà, c'est ça.
Et mon principal regret, c'est que Paris arrive trop tôt.
Oui, mais
j'aurais rêvé qu'on puisse faire ça à Paris. Je pense qu'on va dominer le monde d'ici très peu de temps.
Mais c'est pas grave. Paris, ça peut permettre de prendre date et ça peut être objectif.
Bien sûr,
de Los Angeles,
mais ils seront pas les gamins à Paris. Ça aurait été incroyable. Mais
ils seront pas les gamins à Paris, hein.
À Paris. Non, il y aura Wembanyama et Koulibaly. Ouais, donc, ceux qui ont été draftés l'année dernière, mais pas les nouveaux. On a une génération, des générations qui arrivent. C'est-à-dire que tous les ans, on aura des joueurs bien placés dans la draft. On va dominer le monde, je vous le dis, les yeux dans les yeux aussi.
Ok, et aller taper les Américains à Los Angeles, ça peut être un beau défi aussi, ça.
Je signe évidemment tout de suite, mais encore une fois, la connotation Paris, c'était incroyable.
Mais dominer le monde, ça veut dire être meilleur que les Américains, c'est possible.
Médaille olympique.
C'est vraiment possible.
C'est possible. Oui, c'est vraiment possible.
Médaille d'or.
Bravo, Fred. On a déjà eu l'argent. On a déjà fait des choses. Là, l'étape qu'on est en train de franchir, le fait qu'on soit cette génération, ce peuple, ce basket qui domine, grâce à la draft, dans quelques années, on sera les meilleurs.
Un dernier mot, Fred, sur Zachary Rizache. On l'attendait haut dans la draft, mais peut-être pas numéro 1. Et c'est vrai qu'il arrive un an après Victor Wembanyama. Victor Wembanyama, j'ai fait beaucoup d'émissions avant sa draft. On en a fait pendant 6 mois, des tonnes. Et Zachary Rizache, rien. Est-ce que, pour lui, c'est bien qu'il n'ait pas été mis autant en avant à son arrivée, alors que... Mais on peut le regretter aussi pour lui, parce que c'est-à-dire qu'il aurait pu devenir déjà une star en France, et c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il est passé quasiment inaperçu.
Alors, objectivement, pour connaître
le grand public,
pour connaître très bien la famille, c'est des gens qui sont très simples, qui prennent ça avec beaucoup d'humilité. Lui, c'est pas son truc d'être une star. Lui, il va être le meilleur joueur possible. Et il le sera, ce sera un très bon joueur. Tout le monde dit que cette draft est beaucoup plus faible que celle de l'année dernière. Il faut déjà jamais insulter le futur, d'une part. Et ensuite, effectivement, je trouve que c'est un peu regrettable de pas avoir parlé autant de Zachary Rizache, d'Alex Sarr, hein, qui est quand même deuxième de la draft aussi, mais Wembanyama est un phénomène et des phénomènes comme ça, il n'y en a jamais.
Voilà, c'est aussi pour cette raison que... Oui, Pascal, tu voulais dire en deux mots ?
Oui, je voulais simplement dire que Fred, on ressent ta passion et je t'en remercie. T'es passionné de ton sport et tu transmets ça de manière magnifique. Bravo.
En plus, il déteste le basket, tout le monde le sait.
Mais je regarde les matchs, Pascal.
Merci Fred, merci de Pascal, basket. Merci Cyril, merci Ludovic. Merci. On se retrouve demain en direct d'Angers à l'occasion des championnats de France d'athlétisme, avec notamment, ce sera le moment fort de la journée, Renaud Lavillenie qui va tenter de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Il y aura des invités, Teddy Tamgo, Mélina Robert-Michon, Romain Barras. Voilà, ce sera demain à partir de 9h30, donc soyez bien présents au rendez-vous. Dans quelques instants, les paris RMC autour de l'Euro et du Tour de France. Allez, à tout de suite sur RMC.